je vous remercie d'être tous là. Donc je voulais remercier non seulement Anita Salon qui fait un travail remarquable pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité dans la Vienne, mais surtout toute l'équipe qu'elle a autour d'elle, parce que c'est un travail collectif qu'elle mène avec une équipe avec qui j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner ce midi et que je remercie pour le travail qu'elle fait sur le terrain, parce que je sais que c'est pas facile de mener une association comme la nôtre dans un département qui est semi-rural. Donc je la remercie pour le travail et puis je remercie surtout toute l'équipe et les adhérents de la DMD qui sont là ce soir. Je voulais aussi, puisqu'Anita citait les deux parlementaires qui sont à nos côtés, remercier à la fois Catherine Coutel et Alain Fouché, donc députés et sénateurs. Nous avons la chance d'avoir un représentant de chaque chambre, ce qui est pour nous, comme vous l'imaginez, on va avoir l'occasion d'en parler dans la soirée, très important d'être entendu par les parlementaires. Je sais que Monsieur Claes, le maire de Poitiers, s'est fait excuser et donc représenté par un de ses élus, qui pourra lui transmettre aussi nos salutations. Pour nous, c'est extrêmement important parce qu'évidemment, nous souhaitons une loi de liberté. Alors, avant de vous dire quelques mots et d'engager un débat avec nous, sachant que nos deux parlementaires qui ont en plus assisté à une autre réunion que nous organisions tout à l'heure sont quand même l'une et l'un particulièrement pris, peut-être leur donner quelques minutes la parole afin qu'ils puissent nous dire pourquoi ils sont ici ou s'ils ont évidemment des questions à nous poser. Et puis après, on engagera un débat. Donc...
Oui, Jean-Luc Romero, donc Alain Fouché, mesdames, messieurs, je n'avais pas prévu de donner la parole, c'est pas parce qu'on est des élus qu'il faut, qu'il faut que nous parlions. Juste dire deux mots pourquoi je suis ici, comme l'a dit Jean-Luc Romero. J'ai été contactée il y a déjà quelques mois, même plus longtemps, par M. Grimaud, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui était venu me parler et me sensibiliser à vos préoccupations. Parce que c'est vrai que le sujet que vous abordez et ce que défend l'association, le droit de mourir dans la dignité, fait partie, au-delà des clivages politiques, de choix personnels et de résonances personnelles en fonction de l'histoire des uns et des autres. Et ces sujets sont abordés à différentes étapes de la vie en fonction de circonstances que nous ne maîtrisons pas toujours. Si j'ai répondu plusieurs fois aux demandes de l'association de vous recevoir et aussi de vous apporter mon soutien dans vos démarches et dans vos demandes, c'est parce que je crois que nous devons tous ensemble, la nation et les élus qui vous représentent, réfléchir à la manière à la fin de vie. C'est un sujet qu'il n'est pas toujours facile d'aborder, que parfois nous nions dans la société, que nous essayons de cacher, et il est nécessaire d'aborder ces questions de face, d'en parler, d'accompagner les malades, de lutter contre la douleur le plus fermement possible. Et nous le savons tous, la France avait du retard. Il semble qu'elle rattrape un peu son retard sur cette lutte contre la douleur. Mais il faut aussi réfléchir à cet accompagnement jusqu'à la fin de vie. Alors dans votre document, je lis que la loi n'est pas juste simplement parce qu'elle est la loi. Hein, c'est ce que vous écrivez, Président. C'est vrai que la loi marque une étape. Il y a deux lois importantes, celle de Kouchner et celle de 2005, hein, qui ont déjà amélioré la situation, mais qui sont probablement aujourd'hui insuffisantes. Et c'est votre combat et c'est votre choix à l'association. Ce sont des sujets qui devraient être pris, je crois, à l'Assemblée nationale. Alain Claes fait partie du comité de bioéthique et il étudie particulièrement ces questions. Il faut à la fois avancer sur ce sujet, mais prendre aussi le temps d'entendre les uns et les autres. Ce n'est pas le genre de loi. Moi, je trouve déjà que, globalement, on légifère beaucoup trop vite et beaucoup trop rapidement. Et en quantité, mais c'est le genre de loi, même si je comprends bien, votre combat est long, hein, il y a longtemps que vous le menez, mais qui nécessite de prendre le temps de réfléchir, d'écouter les uns des autres et de faire de la pédagogie. Parce que dans la loi, il y a tout un volet pédagogique qui est un volet de sensibilisation de l'opinion à des sujets qui sont graves, difficiles, douloureux et auxquels il faut apporter des réponses. Donc, Monsieur le Président et les membres de l'association ici, je dois vous dire que vous me trouverez à vos côtés dans un débat qui devrait quand même arriver, je pense. Hein. Je n'en ai pas les dates, je crois qu'elles ne sont pas fixées. Je crois que Monsieur Leonetti a refait un rapport dans la mission qui lui a été demandée après des événements. Le calendrier n'est pas fixé. Donc ce sont des sujets que nous aborderons à nouveau et vous me trouverez à vos côtés pour discuter, débattre et porter un certain nombre de vos demandes et de vos souhaits. Donc je vous souhaite un très bon travail. Je dois aussi dire que je suis impressionnée par l'écho que vous rencontrez, Madame la Présidente, et par l'assistance nombreuse à cette heure et de dire combien Mendès France, dans ce cadre-là, remplit son rôle, mais on le sait, hein, tout ce qui est question de santé, de vie et de mort, trouve un écho dans des conférences à Mendès France où il y a toujours un public extrêmement nombreux et extrêmement assidu. Donc très bon travail à vous et toutes mes excuses pour ne pas rester plus longtemps et félicitations pour votre action.
Deux petits mots simplement pour dire que je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame Coutel. Donc il y a des engagements en matière de législation qui traversent les différentes sensibilités. Je souscris tout à fait au travail qui est fait par Jean-Luc Romero et par toute l'équipe du département de la Vienne avec laquelle on a eu un entretien cet après-midi, avec lesquels on a travaillé. La législation doit évoluer naturellement dans ce domaine. Le rapport Leonetti, il faut attendre l'évaluation qui va en être faite dans quelques semaines, mais il faudra aller beaucoup plus loin que ce rapport. Il faut prendre un certain nombre de garanties, mais effectivement, des choses doivent être modifiées. Donc, il le sait, Jean-Luc, qu'il peut compter sur moi pour soutenir les propositions qui sont faites. Donc, vous pouvez compter sur moi. C'est un dossier véritablement important pour les familles, que j'ai eu l'occasion souvent de rencontrer. Donc, merci pour ce travail. Je suis également à vos côtés. Je vous quitterai vers 8h moins le quart. Mais en tout cas, bonne réunion de travail et à bientôt.
Non, on va le poser, ce sera pour les questions. Eh bien, merci Madame la parlementaire et Monsieur le parlementaire. Merci d'être là parce que c'est vrai que si c'est un débat citoyen, ce débat doit avoir lieu non seulement dans le pays, c'est important, mais aussi évidemment à l'Assemblée nationale. Alors, pour ceux d'entre vous qui participent, je crois, aux conférences du Centre Mendès France et qui ne sont pas des familiers de notre association, quelques mots sur l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle a été créée en 1980 par un universitaire franco-américain, Monsieur Landa, suite à un article qu'il avait écrit à l'époque dans Le Monde et qui avait suscité un grand enthousiasme. Et en quelques semaines, des centaines de personnes adhéraient à la nouvelle association qu'il avait créée. Aujourd'hui, cette association réunit à peu près 46 000 personnes, ce qui est assez important dans le paysage associatif français, je dirais même très important. Et en tout cas, dans le champ de la fin de vie, c'est évidemment l'association la plus importante en France. Elle est organisée en 105 délégations et Anita a la gentillesse de conduire la délégation de la Vienne, ce qui est un travail important. Alors en Vienne, on a à peu près 260-270 adhérents, si je ne dis pas de bêtises. Et notre association, évidemment, fait partie d'un plus grand ensemble parce que réfléchir à la fin de vie, ce n'est pas une réflexion simplement franco-française, c'est une réflexion évidemment universelle et nous faisons partie d'une fédération mondiale, dont je suis d'ailleurs un des responsables, qui réunit plus d'un million d'adhérents à travers le monde et qui va se réunir à Paris pour son 17e congrès mondial du 30 octobre au 2 novembre. Et le 2 novembre, nous lancerons à Paris la première journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité avec des représentants du pays du monde. Ça ira du Zimbabwe à l'Afrique du Sud, en passant par l'Australie, les États-Unis et évidemment tous les pays européens que vous connaissez. Donc c'est dire que notre idée est universelle et qu'on veut aujourd'hui la faire reconnaître. Notre association, contrairement à ce qu'on entend parfois, n'est pas qu'une association association de gens bien portants qui n'ont qu'une réflexion intellectuelle ou culturelle sur la fin de vie. C'est une association qui réunit évidemment des gens qui peuvent être confrontés à la fin de vie, des gens qui pensent à leur propre fin de vie et des gens aussi qui sont, qui sont malades et qui sont donc confrontés aussi à la douleur et à la souffrance. Alors, juste peut-être quelques chiffres pour placer un peu notre sujet. La mort, évidemment, nous concerne tous parce que c'est la fin de la vie. On l'oublie trop souvent, malheureusement, dans nos, dans nos sociétés. Il faut savoir qu'en France, la mort, c'est 500 à 530 000 personnes qui décèdent chaque année. Parmi ces 500 000 personnes, c'est entre 150 000 et 200 000 personnes qui décèdent d'une affection de longue durée, de cancer, principalement dans notre pays. Alors il faut savoir en plus que nos morts ont changé. C'est-à-dire qu'il y a 30 et 40 ans, pour les plus anciens d'entre nous, en général, quand nous mourions chez nous, dans notre famille, dans nos familles, à côté des nôtres, dans notre appartement, dans notre maison. Aujourd'hui, 75% des Français meurent à l'hôpital. Tout ça pour vous dire que nos morts ont réellement changé et qu'elle est devenue de plus en plus taboue parce que, tout simplement, souvent, nous ne voyons pas la mort. Moi, quand j'étais gamin, j'avais 11 ans, j'ai vu mon père mourir. Il est resté pendant 3 jours à la maison et toute sa famille, dont moi-même, à 11 ans, nous l'entourions. Et c'est vrai que ça pouvait être un choc pour un gamin, mais en même temps, c'était un moyen de dire bah « oui, la mort, c'est aussi quelque chose de normal dans notre vie ». Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on veut faire ça comme si c'était extraordinaire. Bien non, quand nous naissons, nous savons que nous allons mourir un jour. Et aujourd'hui, évidemment, la mort, beaucoup de gens ne l'ont pas rencontrée. Il y a quelques jours, je voyais un de mes amis qui a une cinquantaine d'années et il était confronté à la mort de son père. Et c'était presque la première fois qu'il voyait un mort et c'était un choc terrible alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas pour la plupart d'entre nous. Et alors non seulement on ne meurt plus chez nous, mais pire, à peine 24% d'entre nous, et je vais vous donner la référence de cette étude, c'est l'enquête nationale 2005 sur la prise en charge des malades en fin de vie, à peine 24% d'entre nous mourront avec les nôtres. C'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, eh bien, l'immense majorité d'entre nous, nous mourrons sans notre famille, sans les êtres que nous aimons, seuls, dans un hôpital. Et on voit qu'aujourd'hui, nos morts se sont, sont devenus de plus en plus difficiles. Alors, sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire l'euthanasie, celui que nous défendons à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, on nous dit toujours que c'est quelque chose d'exceptionnel, que la demande à être aidée en fin de vie est quelque chose qui arrive rarement. Et on prend exemple en disant, regardez en France, on nous a parlé de Vincent Humbert, de Maya Simon récemment, on nous a parlé de Chantal Sébir et puis cet été du jeune Rémi Salva. C'est 2-3 personnes qui tous les ans demandent à mourir. Mais ce n'est pas du tout cette réalité. Il faut savoir, et vous le savez, parce que chacun d'entre nous a dû l'être confronté, quand on est en fin de vie, la seule chose dont on a envie, c'est d'être à côté des siens, c'est d'être ou seul. En tout cas, on est dans une telle souffrance qu'évidemment, on n'a pas la force ou le courage d'aller s'exposer médiatiquement et de raconter le drame et la souffrance qu'on vit. Et il faut, c'est vrai, à un moment, des personnes exceptionnelles qui ont envie de dépasser leur souffrance, qui ont envie de dépasser leur combat individuel pour porter un combat plus général. Ça a été le cas de Vincent Humbert et de sa maman Marie. Ça a été le cas de Chantal Sébir. C'est le cas actuellement du jeune Rémi Salva qui, avant de mourir, a voulu laisser un film, a voulu témoigner parce qu'il ne voulait pas que sa mort soit une mort pour rien. Parce que c'était cet argument qu'on entend toujours en nous disant on ne va pas légiférer pour 2 ou 3 cas. D'abord, sous le contrôle de certains de parlementaires, je veux dire qu'on légifère trois parlementaires, c'est-à-dire qu'on légifère parfois pour bien moins que ça. Mais c'est certainement pas le sujet. Il y a un chiffre dont on parle jamais d'ailleurs, parce qu'on donne beaucoup de chiffres en France sur la mort. La mission Leonetti donne beaucoup de chiffres, beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'observatoire sur les fins de vie. C'est d'ailleurs une des rares avancées que va apporter cette mission Leonetti. Donc tous les chiffres qu'on donne sont des chiffres qui sont lancés comme ça. Par exemple, M. Leonetti nous dit que la loi Leonetti, la loi de 2005, résout 95% des situations. Un chiffre d'ailleurs qui, même nous, parfois la DMD, on a repris. Puis on a essayé de savoir ce que ça représentait, ces 95%. Eh bien, personne n'est capable de nous le dire. C'est M. Leonetti et les gens qui défendent sa loi qui nous ont dit ça résout 95% des situations, voire certains nous disent 99%. Et quand vous leur demandez quelle étude scientifique est à la base de tout ça, il n'y en a évidemment aucune. Et il n'y a qu'un chiffre en France qui permet de savoir ce que seraient réellement les demandes d'euthanasie dans notre pays si nous avions une loi. Eh bien, il suffit de regarder ce qui se passe dans les Pays-Bas, pays qui a légalisé l'euthanasie. Dans les Pays-Bas, c'est 2% des morts. Je rappelle en plus que les Pays-Bas, comme d'ailleurs la Belgique, qui a aussi légalisé l'euthanasie, sont des pays qui ont des soins palliatifs particulièrement en avance par rapport à la France. Par exemple, en Belgique, il y a 3,6 lits pour 100 000 habitants quand on en a 1,2 pour 100 000 habitants en France. Donc dans ces pays-là, quand vous êtes en fin de vie, vous avez le choix. C'est-à-dire que si vous souhaitez bénéficier des soins palliatifs, ils sont ouverts à tout le monde. Et heureusement, et nous d'ailleurs à la DMD, nous défendons des soins palliatifs pour tous ceux qui souhaitent pouvoir y aller. Mais preuve est que dans ces pays-là, eh bien, il y a des gens où les soins palliatifs ne suffisent plus à un moment. Et en tout cas, la demande d'aide à mourir existe toujours. La preuve, 2% des morts aux Pays-Bas, alors que ce pays a une législation depuis le début des années 2000 et que la jurisprudence avait fait que depuis 15 ans, ils ont la possibilité d'être aidés à mourir. 2% des morts en Hollande, si on transpose ce chiffre, et là c'est quelque chose de scientifique, à la France, ça voudrait dire que sur les 500 000 morts que j'évoquais tout à l'heure, il y aurait 10 000 euthanasies par an dans notre pays. On voit bien que cela n'a rien d'exceptionnel et qu'en tout cas dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et qui ont des soins palliatifs, cette demande existe toujours. C'est pour ça que nous ne voulons jamais tomber dans ce travers de nous dire c'est quelques cas, c'est pas vrai. C'est des milliers de personnes et c'est des milliers de familles qui sont dans ce drame tous les ans. Et pour terminer dans ces chiffres, mais je crois que c'est toujours important d'avoir quand même quelques chiffres au départ, il faut aussi savoir, on nous dit toujours la société n'est pas prête. On entend ça souvent dans les médias, de la part d'un certain nombre d'élus. Ben pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel les sondages disent la même chose depuis 20 ans, c'est bien celui-là. Dans tous les sondages, qui soit fait par n'importe qui. Je ne parle pas des sondages de la DMD, parce qu'à une époque, on fait un sondage tous les ans. Et évidemment, et à chaque fois, il est discrédité. Pourtant, nos sondages, je vous assure, ils sont faits par la Sofres, par l'IFOP, et ils ne sont pas faits auprès des 46 000 adhérents de la DMD. Parce que les sondages donnent entre 80 et 91% des Français favorables. Ça voudrait dire que si c'était fait auprès de la DMD, qu'il y aurait quand même 20% ou 9% de nos adhérents qui adhéreraient à notre association et qui seraient contre notre objet. Ce serait quand même un peu curieux. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les sondages, même ceux payés par la Croix, par le Figaro, c'est-à-dire des organes qui ne sont pas très favorables à ce qu'on défend, donnent entre 80 et 91% de Français favorables. Et ce n'est pas des questions où on leur demande est-ce que vous êtes contre la souffrance en fin de vie. Évidemment, là, ce serait d'ailleurs 100% des gens qui répondraient. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens, ils souhaitent pas forcément être aidés en fin de vie. Ils n'en savent rien. Personne ne sait d'ailleurs ce qu'on veut en fin de vie. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, ils veulent avoir le choix. Ils ont vu des gens souffrir dans leur entourage et ils veulent en tout cas qu'au moment où ils seront en fin de vie, eh bien, ils puissent choisir et puissent éventuellement choisir d'être aidés à mourir si leur vie, si leur survie ou leur fin de vie n'a plus de sens ou si elle n'est que souffrance. Alors, qu'est-ce que nous demandons à la DMD ? Bah, d'abord, nous demandons que le débat en France change. Le débat en France n'a été qu'un débat médical jusqu'à aujourd'hui. On a fait de ce débat qu'une question d'ordre médical. Pour nous, c'est une question citoyenne, c'est une question éthique. C'est la fin de vie de chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est pas un débat réservé aux médecins, ou plutôt à quelques mandarins qu'on entend régulièrement sur les ondes de télévision ou de radio. C'est notre dernière liberté et nous souhaitons que ce débat soit pris sous cet angle-là avant d'évoquer la question médicale. Nous ne disons pas que les médecins, les soignants n'ont aucun rôle à jouer. Bien sûr, ce serait stupide de dire ça, mais nous disons que d'abord, la décision, c'est la nôtre et que nous n'acceptons plus ces discours que nous entendons souvent d'ailleurs de certains professeurs de médecine qui sont opposés à toute loi, mais qui nous disent, vous savez, nous, l'euthanasie, on l'a pratiquée, mais c'est la transgression, c'est nous qui décidons. Eh bien, pour nous, ce n'est pas le médecin qui décide, c'est la personne. Parce que, par exemple, une personne peut, pour des raisons religieuses, vouloir vivre le plus tard possible, voire dans des souffrances. Si c'est son choix, elle doit être respectée. Et ce n'est certainement pas un soignant ou quelqu'un d'extérieur qui doit décider pour elle que sa vie, doit s'arrêter. Donc, nous demandons que ce soit la personne et le citoyen qui soit au centre comment dire, de ce débat. Deuxième chose, nous voulons une législation républicaine maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu épuisés d'entendre depuis des années que ce débat revient sans arrêt, parce que si, je vous disais tout à l'heure, c'est des personnes exceptionnelles qui témoignent, et donc enfin, qui ont cette force de témoigner, ça arrive quand même d'une manière assez, assez régulière. Et à chaque fois que quelqu'un témoigne, on l'a vu avec Vincent Imbert, on l'a vu avec Maya Simon l'année dernière qui est partie en Suisse pour mourir, on l'a vu avec Chantal Sébir, on l'a vu cet été avec le jeune Rémi Salva qui a quand même qui avait fait un témoignage très émouvant et un courrier très émouvant au président de la République. On nous dit « Ah mais attendez, on ne peut pas légiférer dans l'urgence et dans l'émotion ». Mais l'émotion, elle est tout le temps là. Donc il faut qu'on arrête. Et puis, ce n'est pas un critère. Moi, je me souviens, l'année dernière, il y a un manège qui s'effondre, il y a une personne qui décède, et d'un seul coup, à Lyon-Marie, tout le monde se met en branle. Il faut résoudre le problème, changer les réglementations, on réunit tous les forains, etc., ce qui est très bien, ça ne me pose pas de problème. Mais là, c'est quand même de l'émotion. Il y a un problème pour un manège, on peut là-dessus, il faut tout de suite trouver une nouvelle réglementation. Alors là, il faut être sérieux. Ce débat, ce n'est pas un débat qui arrive une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ans, c'est un débat permanent, c'est un débat qu'on vit dans nos vies, et arrêtons de nous dire qu'on ne peut pas légiférer parce qu'il y a de l'émotion et parce que c'est l'urgence. L'urgence, elle est permanente, et l'émotion, forcément, elle est permanente dans nos familles, moins médiatiquement, mais ici, hein, il y a un certain nombre d'élus qui sont ici, certainement de responsables associatifs, vous le savez, les médias, un jour, ça parle d'une chose, le lendemain, ça zappe, et ça parle d'autre chose. Donc l'émotion, évidemment, elle ne peut pas être permanente autour du même sujet. Vous savez, moi, je suis un militant de la lutte contre le sida, il y a 5000 morts tous les jours dans la lutte contre le sida, c'est 2 fois le nombre de morts qu'il y a eu le 11 septembre, personne n'en parle. C'est passé, on en a parlé dans les années 80, eh bien on est passé à autre chose. Eh bien notre problème à nous, c'est un problème qui existe tous les jours, c'est pas parce qu'il n'est pas à la une de l'actualité qu'il ne faut pas en parler, et c'est pas à chaque fois qu'il y a un cas qu'on nous dise « écoutez, on est dans l'émotion, nous verrons plus tard ce que nous ferons ». Alors, ce que nous souhaitons, évidemment, et je le répète, c'est le respect de notre dernière liberté, la nôtre. C'est-à-dire que nous ne demandons pas que ce soit une obligation pour les autres. Je rappelle qu'on est dans une république laïque et qu'il est aussi normal de choisir le choix personnel des uns et des autres. La dignité que nous invoquons, on nous le reproche souvent, c'est évidemment la dignité que nous ressentons individuellement. C'est pas le regard que nous avons, que j'ai vis-à-vis de vous, que vous aviez vis-à-vis de nous. Chacun juge sa propre dignité et c'est bien normal que chacun n'ait pas le même jugement sur cette question. Et puis aussi, parfois on nous fait passer pour des militants de la mort. Je peux vous dire qu'à la DMD, et on peut le voir régulièrement, on est plutôt en général des bons vivants. Et si on se bat, c'est parce qu'on aime tellement la vie qu'on n'a pas forcément envie de mourir n'importe comment. Et qu'on est des gens qui repoussons le plus tard possible, comme tout chacun d'entre nous. On a tous envie de vivre le plus longtemps possible. Mais on sait qu'à un moment, la mort va évidemment arriver. Et nous voulons à ce moment-là, non pas avoir un choix entre la vie et la mort, mais avoir un choix entre 2 morts. Ce n'est pas ce choix sordide qu'on a l'air de dire, l'ADMD défend un choix entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas vrai, nous on veut vivre le plus longtemps possible, mais quand on estime que notre vie ne vaut plus le coup, et c'est à nous de le décider, nous souhaitons qu'on puisse être aidé à ce moment-là. Et puis, quand je vous ai dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on voudrait aujourd'hui ? Bien, on voudrait une double chose. On voudrait que, comme dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, je vous rappelle qu'aujourd'hui en Europe, la Hollande l'a fait, les Pays-Bas, pardon, la Belgique, le Luxembourg est en train de terminer sa loi, elle va être votée dans les jours qui viennent définitivement. La Suisse a une législation qui ne nous convient pas, puisque vous savez, c'est l'interprétation à contrario d'un article du Code pénal, mais en tout cas, il y a le suicide assisté qui est autorisé. Et puis on apprend qu'actuellement, en Espagne, il y a un énorme débat et qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui se prononcent pour une législation légalisant l'aide active à mourir. Et donc, on va bientôt être entouré de pays, hormis l'Italie, qui sera évidemment la dernière, parce qu'avec le Vatican, on comprend que c'est un peu plus compliqué que chez nous. Mais en tout cas, on va bientôt être entouré de tous les pays, de pays qui auront tous légalisé l'euthanasie. On risque encore d'être les derniers. Alors nous voulons la même chose que ces pays qui ont déjà légalisé et qui ont un recul. La Belgique et la Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour la plupart, en même temps, ils ont voté une loi permettant l'accès général aux soins palliatifs et une loi légalisant l'euthanasie. Alors, je reviens sur les soins palliatifs. Nous, à la DMD, nous sommes pour l'accès pour tous aux soins palliatifs. Je crois que là-dessus, il faut que ce soit très clair. On entend parfois des choses qui sont dites. Nous battons pour que ceux qui souhaitent en bénéficier puissent en bénéficier. Et force est de constater qu'il faut aussi que là-dessus, on sorte aussi de l'hypocrisie. Dans notre pays aujourd'hui, et Marie de Henzel, dont vous avez tous entendu parler, qui est une femme d'ailleurs tout à fait remarquable, même si elle est un peu angélique, a fait encore un récent rapport dans lequel elle rappelle qu'il y a 15% de personnes qui en ont besoin qui peuvent bénéficier des soins palliatifs. Donc vous voyez, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, 85% des gens malades et qui ont besoin de soins palliatifs ne peuvent pas en bénéficier. Alors le président de la République nous a annoncé qu'on allait doubler les lits. Il nous a dit ça après son élection. Il nous l'a redit il y a quelques semaines. Très bien. Et nous en avons approuvé. Sauf que ça veut dire quoi concrètement? Et ça, Monsieur Leonetti oublie de nous le dire, que 30% des gens vont pouvoir accéder à des soins palliatifs. Ça veut dire que dans les 10 années qui viennent, 70% des gens qui en ont besoin n'auront pas de soins palliatifs. Et ça, c'est une réalité. Parce que cette chose qui n'est toujours dit, notamment par Marie de Henzel et d'autres, qui nous dire que quand les gens sont dans les soins palliatifs, ils n'ont plus de demande de mort. Alors déjà, c'est pas Martine au pays de oui-oui quand même. Hein. Les choses ne sont pas aussi simples. Vous avez certainement vu des gens, la fin de vie, même quand on est bien accompagné, bien parfois, ça ne peut pas suffire. On le voit bien dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Cet argument qui est aussi de nous dire toujours, ah, vous savez, quand on est dans les soins palliatifs, la demande de mort qu'ils font au début, ils ne l'ont plus après. Il y a quelques jours, je suis allé voir un de nos adhérents qui était à Jeanne Garnier à Paris. Les parlementaires connaissent peut-être ce lieu. C'est le lieu d'accueil qui a le plus de moyens et qui est un lieu magique, même, je voudrais dire, à Paris pour la fin de vie. À peu près 70 lits, très beau lieu. J'y suis allé plusieurs fois. Les gens sont très bien accompagnés, tout le monde le dit, avec beaucoup de dignité. Mais évidemment, quand vous arrivez dans ce lieu et que vous dites, comme ce militant de la DMD, vous savez, moi, je voudrais que vous m'aidiez parce que maintenant, c'est très bien ici, vous vous occupez bien de moi. Mais il y a des choses que je ne supporte plus. J'ai peut-être plus de souffrance physique, mais c'est au fur et à mesure que vous me donnez certains médicaments, je perds ma conscience. Et moi, j'avais quand même envie de parler un peu plus avec ma famille. Et puis, il y a des choses que je ne supporte pas. Alors, je ne vais pas vous donner de détails. Vous imaginez ce que ça peut être quand vous laissez aller, quand vous faites sur vous, etc. Il y a certaines personnes qui ne supportent plus de vivre comme ça, qui ne supportent plus pendant des jours. Lui, c'était son cas. Il leur a dit au début, je suis militant de la DMD, je voudrais que vous m'aidiez. Ils lui ont dit, c'est pas possible. On va tout faire pour vous faire. D'abord, c'est contre nos principes. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'associations dedans, comme Jalmav, etc., qui sont d'ailleurs peut-être aussi dans cette salle, qui sont, et c'est bien sûr leur droit, des associations catholiques, et qui évidemment sont opposées à ça, qui disent clairement, on est contre, et puis la loi nous l'interdit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce... Même ce militant de la DMD, qui était un bon... Il m'a dit, mais je l'ai dit une fois, de toute façon, je sais qu'ils ne peuvent plus m'aider, j'ai arrêté, puis de toute façon, je suis tellement assommé par les médicaments, je ne vais pas aller me battre avec ces médecins et ces personnes qui viennent me voir, qui sont en plus des gens très compatissants. Et c'est logique, quand vous êtes malade, en fin de vie, que vous souffrez, on vous a dit non, vous croyez que vous continuez à dire à vos médecins qui en plus sont, bon voilà, c'est des médecins, vous êtes qu'un pauvre patient dans une situation difficile, vous êtes en fin de vie, vous arrêtez de demander, évidemment, donc cet argument n'a pas de sens. Mais pour revenir à ce que je disais au début, nous, en tout cas, nous nous battons pour que chacun y ait accès, et aujourd'hui, il faut arrêter l'hypocrisie, nous n'avons pas tous accès aux soins palliatifs, nous n'aurons pas tous accès aux soins palliatifs dans les 10 ans qui viennent, et même le jour où nous l'aurons, mais nous, personne dans cette salle ne connaîtra notre pays, il n'y aura jamais les crédits pour que nous puissions tous y accéder. Mais même ce jour-là, eh bien, comme dans les pays où tout le monde peut y accéder, on voit bien qu'il y a évidemment des souffrances qui ne peuvent pas être soulagées et que des gens peuvent, dans ces cas-là, toujours réclamer à être aidés. Alors, nous battons pour que, de toute façon, demain, il y ait quand même une loi qui permette un droit opposable aux soins palliatifs et que chacun puisse en bénéficier, à charge pour l'État de trouver les crédits, ce qui n'est malheureusement toujours pas le cas. Et dans le même temps, eh bien oui, nous voulons une loi qui légalise l'euthanasie. Alors, et j'utilise à escient le mot euthanasie. Je sais que certains d'entre vous sont heurtés par ce mot-là. Je me suis souvent posé la question, à la DMD, on a cherché des mots, aide active à mourir, interruption volontaire de vie, etc. En même temps, on s'est rendu compte que le problème, c'est que les gens, si vous utilisez des tas de mots, ils ne comprennent pas. Et que dans une société, ce n'est pas parce que ce mot, il a été utilisé d'une manière, scandaleuse par les nazis, par exemple, qui, en parlant d'euthanasie, il ne faisait pas de l'euthanasie, c'était du meurtre. Il tuait des gens qui n'avaient rien demandé. Il supprimait des gens indésirables. Donc ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on se demande, parce que le mot euthanasie, ça veut dire bonne mort, belle mort. Donc ce n'est pas parce que des gens ont mal utilisé ce mot. Et qu'aujourd'hui, dans le débat, certains continuent à l'utiliser de cette manière-là, qu'il ne faut pas utiliser un mot. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège qu'on veut parfois nous tendre en n'utilisant pas les mots qui existent. Parce que de toute façon, si vous ne les utilisez pas, les gens ne comprennent pas et on n'avance pas sur la question. Et c'est pour ça que moi, même si j'ai aussi parfois des doutes sur ce mot-là, eh bien je préfère l'utiliser parce qu'au moins on sait de quoi on parle quand on utilise ce mot. Alors, nous, derrière une légalisation de l'euthanasie, quelles sont les exigences que doivent poser une telle loi ? Ben, la première, c'est évidemment de mettre au dispositif la volonté de la personne. Et ça, je crois que à la DMD et dans la soirée, si vous me posez les questions, si vous nous posez les questions, à Anita, à moi ou à d'autres militants de la DMD ici, on vous le dira toujours. D'ailleurs, c'est la seule garantie pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'est le respect et le respect de la volonté de la personne et de mettre la personne au centre du dispositif. Le deuxième principe, c'est évidemment d'éviter les dérives de l'absence de législation. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit « mais s'il y a une loi, il va y avoir des dérives ». Mais c'est faux. Enfin, bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui ne respectent pas la loi, ça existe toujours. C'est-à-dire, s'il y a des prisons, c'est bien pour quelque chose. Mais en tout cas, une loi, ça protège. Et c'est aujourd'hui que les dérives ont lieu. Qu'est-ce qui se passe ? La première commission Leonetti, elle a auditionné des tas de médecins qui y sont opposés, sauf quand c'est eux qui le décident, comme ils disent la transgression. Mais ils reconnaissent qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, mais bien sûr qu'on transgresse, mais bien sûr qu'on euthanasie des gens qui n'ont rien demandé, et on refuse d'aider ceux qu'ils demandent d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal. Bien sûr que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il vaut mieux une loi qui permette de contrôler, et qu'on contrôle au moins que si les personnes sont aidées, c'est parce que c'est leur volonté, et que c'est pas pour d'autres raisons, et que c'est pas pour, par exemple, pour des raisons économiques, c'est pas parce que c'est la fin de semaine et qu'on sait que la personne va mourir le lundi, alors tant qu'à faire, autant accélérer sa mort au vendredi, comme ça, ça libère les lits. Donc on voit bien que les dérives, c'est aujourd'hui qu'elles ont lieu. En Belgique, en Hollande, il y a certainement des euthanasies illégales, très peu, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais dans notre pays, c'est 100% des euthanasies actives qui sont illégales, puisqu'il n'y a pas de loi dans ce domaine. Et puis bien sûr, il faut le principe d'une loi, c'est aussi le respect des consciences. Ben, c'est le respect de ceux qui, bien sûr, y sont opposés. C'est le respect des médecins qui sont opposés. Vous savez, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse permet aux médecins qui sont heurtés par l'idée d'aider une femme à avorter, à pouvoir le faire. Ils doivent bien sûr envoyer cette femme vers un autre médecin. Eh bien, évidemment, cette loi que nous voulons, c'est une, comment dire, c'est une loi qui respecte les convictions de chacun, du médecin, et puis évidemment de la personne qui veut mourir le plus tard possible et qui donc s'oppose à toute dérive économique. Et je crois que dans ce domaine, c'est clair. Alors, on y viendra peut-être par rapport à vos questions. Si vous voulez du détail un peu sur la loi qu'on peut proposer, je crois que c'est un peu technique et ça ne vous intéresse pas forcément. Ce qui est important, c'est évidemment ces principes que j'ai énoncés. Quand je disais, pour éviter les dérives, aux Pays-Bas, qui est quand même le seul pays, d'ailleurs ça, Leonetti veut bien le copier, qui a un observatoire des fins de vie. Ben, ils ont au moins le mérite, eux, de voir ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'euthanasies illégales. Il faut savoir que dans ce pays qui a légalisé l'euthanasie, les médecins qui l'ont pratiqué selon les conditions qui existent dans ce pays doivent après envoyer un rapport, que ce rapport est examiné par une commission régionale, puis après par une commission nationale. Et que quand la commission nationale voit des dérives, eh bien elle envoie évidemment ce rapport à la justice les personnes peuvent être poursuivies. C'est ainsi qu'en 2007, 3 personnes ont été poursuivies pour des euthanasies qui en fait n'avaient pas grand chose à voir avec l'euthanasie. Donc on voit que le contrôle a quand même du bon dans ce pays-là. Une légalisation de l'euthanasie, ça aussi, ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas c'est une réalité, l'intérêt de sauver des vies et d'éviter, enfin en tout cas, d'éviter des morts traumatisantes et d'éviter des morts précoces. Alors je m'explique. Les morts traumatisantes, on en parle très peu dans notre pays. Mais vous savez, si le suicide des jeunes est dramatique, et là-dessus on se bat, parce qu'évidemment, nous, on ne demande pas une loi légalisant l'euthanasie pour que le petit jeune qui a un chagrin d'amour puisse se suicider et être aidé par la société. On est là, au contraire, pour lui dire, écoute, tu verras, ça te paraît terrible aujourd'hui, mais tu te rendras compte que voilà, les chagrins d'amour, on va tous en avoir, et sur le coup, on croit que la vie vaut plus la peine, et puis après, on se rend compte qu'elle vaut encore la peine. Mais aujourd'hui, le suicide qui est terrible, c'est celui de nos aînés, dont on ne parle jamais, parce que ça n'intéresse personne, ça. Il faut quand même savoir que le suicide des plus de 85 ans, il est 10 fois supérieur à la moyenne nationale des suicides. Et ces seniors, ils se suicident comment? 43% des hommes se pendent. Vous imaginez ce qu'est cette situation? Des gens, enfin je veux dire, la situation, ce qu'on offre aujourd'hui à des gens en fin de vie, c'est de leur dire, bah, écoutez, vous avez votre vie, vous avez tellement de souffrance, plus d'espoir, etc., bah, pendez-vous. Voyez pour eux ce que ça peut être. Et puis pour les familles qui découvrent l'un des leurs pendu, voire avec une balle dans la tête, qui est le deuxième moyen qui est utilisé par les gens, parce que ce n'est pas les médicaments, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est extrêmement compliqué quand on n'est pas un spécialiste. J'entendais M. Leonetti encore dans une interview qui disait « Mais si les gens veulent se suicider, qu'ils suicident, c'est facile de trouver les médicaments. » Oui, c'est facile pour lui, les médecins, mais pour vous, pour moi, ce n'est pas facile du tout, parce que vous imaginez, trouver la bonne combinaison de médicaments, il faut vraiment être très doué pour ça, d'autant que, comme vous le savez, en France, il y a une loi qui interdit de donner entre guillemets les recettes pour pouvoir se suicider. Donc c'est pour le commun des mortels, c'est absolument impossible. Donc pour éviter ces morts atroces et puis surtout pour éviter la précocité de ces morts, quand vous êtes malade ou quand vous êtes quand vous sentez que la fin de vie va approcher et que vous ne voulez pas vivre une fin de vie douloureuse où vous ne pourrez plus faire ce que vous souhaitez, où vous ne pourrez plus mourir debout, entre guillemets, qu'est-ce que vous faites? Mais vous le faites tant que vous pouvez. Donc combien de seniors, combien de personnes qui ont des cancers ont préféré se suicider tant qu'ils pouvaient? Mais qui nous dit, parce qu'on n'en sait rien, qui nous dit que s'ils avaient une loi, peut-être qu'ils auraient vécu encore un an, deux ans, trois ans? Regardez Maya Simon, que nous avons particulièrement suivie à la DMD. Ses médecins lui disaient qu'il lui restait qu'un mois. C'était peut-être vrai, sûrement. Mais vous savez ce que c'est, la science? On a tous connu dans notre entourage des gens à qui on a dit « il vous reste un mois, six mois », et puis qui, parce qu'ils ont une force de caractère, parce qu'il y a des choses toujours imprévisibles dans la nature humaine, ont vécu beaucoup plus longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on a dans notre pays des gens qui se suicident très tôt parce qu'ils se disent qu'à un moment, leur maladie sera tellement paralysante qu'ils ne pourront pas le faire. S'il y avait une loi, eh bien c'est tout à fait clair qu'ils ne le feraient pas parce qu'ils sauraient que le jour où leurs souffrances sont insupportables, eh bien, ils pourraient être aidés. Et contrairement à ce qu'on dit, eh bien oui, en matière de prévention du suicide, une loi légalisant de l'euthanasie, c'est un, comment dire, c'est une garantie. Et puis une loi, mais ça rassure les gens. Et c'est important. Parce que la fin de vie, c'est suffisamment douloureux. On l'a en plus tellement fui la mort dans notre société moderne. Il faut savoir que dans les Pays-Bas, dans l'Oregon, qui a légalisé depuis longtemps le suicide assisté, toutes les études montrent qu'à peu près 50% des gens qui demandent à un moment donné de leur maladie à être aidés ne vont pas jusqu'au bout. Ben pourquoi? Parce qu'ils sont rassurés. Ils vont peut-être mourir tout simplement, sans les souffrances qu'ils estimaient, et ils ne vont pas jusqu'au bout. Et on voit en plus à quel point une loi peut être aussi préventive et peut rassurer les gens. Alors, avant, parce que je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on ait plus un débat, je voudrais vous dire, avant de conclure, encore deux choses, peut-être vous éclaircir les choses autour du débat qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui, comme nous, partage l'idée que la loi actuelle n'est pas suffisante. Et si vous voulez, on vous expliquera tout à l'heure, on pourra en parler, pourquoi nous ne l'estimons pas suffisante. Il y a deux options qui sont proposées. Il y a des gens qui se battent pour une exception d'euthanasie, et puis d'autres comme nous qui se battons pour la légalisation de l'euthanasie. Pourquoi nous ne nous battons pas pour l'exception d'euthanasie alors que nous comprenons, nous sommes un peu dans la même logique que ceux qui se battent là-dessus? Pour une raison toute simple. C'est que l'exception d'euthanasie qui avait été d'abord proposée en 2000 par le Comité national d'éthique, aujourd'hui est défendue par un certain nombre de personnalités qui nous expliquent comment ça fonctionnerait. Ce serait une commission nationale qui déciderait d'accorder ou de ne pas accorder ce que demandent certaines personnes. Et pour nous, si vous voulez, nous partons d'un principe différent que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que d'abord, le mot d'exception, pour nous, ne convient pas à cela. 10 000 morts par an, c'est-à-dire 20 000 demandes, si on part dans l'idée que 50% ne vont pas jusqu'au bout, ce n'est pas du tout exceptionnel. Il suffit de se référer à la Hollande, à la Belgique. Comment une commission nationale pourrait, dans des temps brefs, parce qu'en général, ces demandes, c'est quelques jours, quelques semaines au maximum, comment pourrait-elle répondre rapidement à 20 000 demandes par an? Comment pourrait-elle les examiner? Les moyens qu'il faudrait pour une telle commission, on n'a pas les moyens de financer des soins palliatifs à la hauteur de ce que mériterait notre pays. On veut nous faire croire qu'on va pouvoir mobiliser des milliers de personnes dans une commission nationale, alors qu'on sait, il suffit de voir la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui n'a quand même pas un nombre de demandes extraordinaires, mais qui a des moyens extrêmement limités, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Comment on ferait pour une commission nationale comme celle-là? Vous imaginez, il faudrait un nombre de fonctionnaires, entre guillemets, extrêmement important. Les délais, je vous le redis, ils seraient bien trop longs pour cela. Et puis, comment ça se passerait? On enverrait un dossier, vous imaginez, dans la rapidité où ça doit avoir, on enverrait un dossier, et puis ce dossier il serait examiné, mais par qui? Ce serait forcément par des fonctionnaires, enfin des contractuels, en tout cas des personnes, très loin des personnes concernées, sur la base d'un dossier qu'enverraient les médecins, et donc ils décideraient en disant, bah oui, là, les conditions nous apparaissent exceptionnelles, on accepte, et puis, ah bah là, c'est pas assez exceptionnel. Alors, je vous dis pas les recours juridiques qu'il y aurait après, mais les drames qu'il y aurait absolument dans les familles, et puis ce serait une rupture totale de la relation que nous avons avec notre médecin, puisque ce serait même plus son avis qui compterait, mais l'avis d'une commission, et puis au final, la décision de la personne que nous voulons mettre au centre de ce dispositif, ben on voit bien qu'avec une telle commission, elle ne serait une fois de plus pas entendue. Donc on voit que ce système qui part d'un bon sentiment, mais qui part du sentiment qu'il y a quelques affaires par an, on voit bien que c'est pas la réalité des choses, et pas un bon système, et que, eh bien, très vite, si une telle exception d'euthanasie avait été proposée, mais là, Leonetti nous a dit que maintenant, et c'est sûr qu'il ne le proposerait pas. Gaëtan Gors était un de ceux qui le faisaient, mais a priori, tout le monde s'est rendu compte que malheureusement, son idée n'est absolument pas applicable. Qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient accepté ça? Quelques mois plus tard, il y aurait eu évidemment un rejet. Par exemple, ils auraient pu refuser, par exemple, à Rémi Salva. Ça aurait fait une telle émotion dans le pays qu'on serait dit, ben, on voit bien que cette loi n'est pas suffisante. Et de toute façon, très honnêtement, jamais, en plus, on est malheureusement dans une situation économique telle, jamais l'argent n'aurait été là pour donner les moyens nécessaires pour agir sur ce problème. Et c'est là la question, et c'est là pour lequel nous on se bat pour la légalisation de l'euthanasie, parce que pourquoi envisager encore un système compliqué quand il existe aux portes de la France des pays qui depuis des années, ça aurait été fait l'année prochaine, on n'aurait pas le recul, qui depuis des années ont mis en place des systèmes protecteur de la volonté des gens, protecteur des consciences, pourquoi ne pas tout simplement copier? Il n'y a pas de honte à copier la Belgique. Il n'y a pas de honte à copier nos amis néerlandais quand il faut des choses bien. On n'est pas obligé, parce qu'on est des Français, d'inventer tout. Non, il y a des exemples qui se passent bien dans les autres pays. Alors pourquoi aller encore inventer, aller inventer d'autres choses? Alors, avant de terminer, vous me direz, mais... Et c'est un des arguments qu'on entend souvent. Mais pour avoir une telle loi comme ça, il faut qu'on arrive à un consensus, notamment parlementaire. Moi, je rappelle, le consensus dans le pays, il existe. Les Français, ils sont prêts à ça. Il n'y a que certains parlementaires pour ne pas l'entendre. Mais les Français, ils sont prêts. Qu'ils aillent dans la rue, qu'ils aillent sur les marchés, qu'ils parlent de cette question-là, ils verront qu'ils sont prêts. Mais on nous dit, pour une question comme ça, il faut un consensus parlementaire. Alors, moi, je suis très surpris d'entendre ça. Pour plusieurs raisons. D'abord, quand on voit ce qui s'est passé en Belgique, aux Pays-Bas, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Luxembourg, mais ces lois qui ont été adoptées. Alors maintenant, en Belgique, en Hollande, elles font consensus. Un peu comme en France, le PACS, par exemple. Mais au moment, ça a été des débats très violents. Très violents. Aujourd'hui, au Luxembourg, c'est des débats extrêmement violents. Et ces lois, elles ne sont pas votées par l'unanimité des parlementaires, elles sont votées par une majorité qui souvent peut dépasser les clivages politiques, et tant mieux pour une histoire comme ça, mais en tout cas, ne sont jamais votées par l'unanimité. Et qui nous dit dans notre pays, notamment, que toutes les réformes de société ont été votées dans l'unanimité. Moi, je n'en vois aucune. La peine de mort que le président Mitterrand avait présentée, en plus dans un contexte qui était différent, c'est-à-dire que là, les Français, ils n'étaient pas plutôt favorables. Elle n'a pas été votée dans l'unanimité. Aujourd'hui, elle fait, hormis chez les extrêmes, l'unanimité, mais elle ne l'a pas été. La loi sur l'avortement, enfin, rappelons-nous, en ce moment, un livre marche très bien, c'est celui de Simone Veil, Une vie. Elle raconte comment tout ça s'est passé. C'était terrible, ces débats. C'est terrible, les choses qui ont été dites. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Les mêmes. Et puis, plus près de nous, le PACS. Mais rappelez-vous ce qu'on a entendu pour le PACS. C'était l'effondrement de la société, société barbare, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui disaient ça trouvent que le PACS est très bien. C'est quand même toujours un peu particulier. Mais dans ce débat-là, eh bien, il y a eu, et là, c'était un peu dommage, parce que sur un débat de société, là, ça a vraiment été la droite contre la gauche, hormis Roselyne Bachelot, qui a soutenu la gauche sur cette question-là. Il n'y a jamais d'unanimité sur des questions de société comme ça, parce qu'il y a toujours une partie des parlementaires qui sont très conservateurs et qui ne veulent pas toucher à cette société. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de sortir de ce discours, et notamment celui qu'a M. Leonetti. Hein. Rassurez-vous, je n'ai rien contre M. Leonetti, mais c'est lui qui, aujourd'hui, porte cette question, qui nous dit qu'il faut un consensus. Eh bien, moi, je dis non, il ne faut pas forcément un consensus. Il y a un consensus dans le pays. Et puis, parfois, il faut avoir du courage. Quand on est élu, il faut avoir aussi du courage. Et voilà, accepter qu'on puisse voter une loi sans qu'elle fasse unanimité, surtout quand c'est une loi qui touche à la vie, qui touche à notre mort. Alors, vous l'avez bien compris, la demande que nous avons est vraiment, et j'insiste, pas la demande de gens qui sont des fanas de la mort, qui révèlent, qui sont des adorateurs de la mort. C'est au contraire la demande de gens qui aiment la vie, mais qui réfléchissent à leur fin de vie et ne souhaitent pas n'importe quoi pour leur fin de vie. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une loi républicaine. Et je le dis clairement, parce qu'on entend aussi en disant « mais ces gens-là, ils se battent pour une loi pour eux ». Mais c'est pas vrai. Nous, on se bat pour tout le monde. C'est plutôt les gens qui s'opposent à nous qui se battent que pour eux. Ils se battent que pour la société idéale qui est la leur. Alors, moi, ça ne me pose aucun problème que les religions s'opposent à tout ça. C'est le rôle des religions de faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand une religion impose à une société laïque ses préceptes. Nous, on veut une loi républicaine, c'est-à-dire une loi qui repose sur notre devise républicaine. Notre devise, on la connaît tous, on l'aime tous. Liberté, égalité, fraternité. Je vous le disais, et je le répète, parce que je crois que ça, c'est important, la liberté de celui qui veut mourir le plus tard possible, même dans des souffrances. Le pape, récemment, disait à Lourdes que la souffrance peut être rédemptrice pour celui qui le croit, volontiers. Moi, je ne crois pas du tout qu'en ce qui me concerne, la souffrance sera rédemptrice, et je ne le souhaite pas. Mais je comprends que des gens puissent penser ça, et je comprends qu'on les respecte, et qu'on les laisse mourir dans la souffrance. S'ils le souhaitent, ils doivent être respectés. Et aujourd'hui, ils le sont s'ils le souhaitent. Évidemment, une loi, et je le répète, qui respecte la liberté des médecins, qui ne souhaitent pas aider quelqu'un à partir, même si pour moi, la mort fait partie de la vie, et l'accompagnement à la mort est pour moi aussi le rôle des médecins. Et je vous rappelle qu'ils nous disent aujourd'hui que ce n'est pas leur rôle. Ils ont dit la même chose, l'Ordre des médecins a dit la même chose pour la contraception, que c'était scandaleux, que ce n'était pas leur rôle, etc. Ils ont dit la même chose pour l'avortement, et puis, vous voyez, ils se sont adaptés, ils ont adapté leur code d'éthique, ils ont tout adapté, et puis aujourd'hui, ce n'est plus contraire au serment d'Hippocrate. Eh bien, ils feront la même chose quand une loi sera votée. Il y a un peu dommage qu'on ait, nous, toujours un Ordre des médecins et une Académie de médecine qui est toujours en retard par rapport à la société et qui n'entend pas ce que demandent les Français. Puis une loi d'égalité, parce que, je le disais tout à l'heure, mais chacun d'entre nous le sait, si vous êtes entouré de médecins ou de gens qui connaissent bien, je veux dire, ou de pharmaciens, bah peut-être que c'est facile. C'est facile d'être aidé quand M. Leonetti nous dit bah, les gens quoi se suicider, c'est facile. Pour lui, c'est facile. Il prescrit des ordonnances, il connaît les médicaments. Pour l'immense majorité des Français, ça ne l'est pas. Donc il y a une rupture de l'égalité. Égalité aussi face à l'argent. Il y a une association qui, en Suisse, accepte de nous aider. Alors je voudrais dire, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. On a dit beaucoup de choses sur cette association qui sont scandaleuses. Elle fait des choses, elle les fait, je dirais, plutôt bien. Mais c'est vrai, eh bien, tout ça a un coût. Et ben, pour pouvoir aller en Suisse, ben, il faut pouvoir payer 6 000 euros. Tout le monde ne peut pas, même si globalement tout est payé dedans, notamment l'enterrement. On voit que d'une certaine manière, là encore, il y a une inégalité devant l'argent. L'immense majorité des Français ne peut pas ni trouver les médicaments, ni avoir les moyens d'aller dans un autre pays. Et puis en même temps, c'est absolument, enfin, c'est incroyable de penser que parce que nos souffrances sont insupportables, on doit fuir notre pays pour mourir. C'est même pas, je veux dire, acceptable pour nous. Puis enfin, une loi de fraternité, parce que dans notre pays, on n'a pas le droit de laisser les gens souffrir. On nous dit aujourd'hui qu'on soulage toutes les souffrances. On entend des médecins qui nous disent ça. Tout le monde sait ici que c'est faux. Bien sûr, on peut soulager les souffrances. D'ailleurs, c'est le moyen quand on leur demande comment. Eh bien, en endormant les gens. Quand une personne fait une chimiothérapie pour son cancer, les effets secondaires, ils ne sont jamais soulagés. Est-ce qu'on va dire à une personne qui est en chimiothérapie, si vous souffrez tôt, vous endormir et puis on ne va pas vous réveiller aussi, tant qu'à faire. Parce que c'est le seul moyen qu'on ait de ne pas souffrir, c'est en vous endormant. Quand vous luttez contre une maladie, oui, il y a des effets secondaires. On ne soulage pas toutes les souffrances. Et on le sait même tous, quand on va chez le dentiste, chercher un truc, on a souvent des effets après. On a beau vous assommer de médicaments, il y a bien sûr des souffrances. Et puis, il y a des gens qui ont des maladies avec des souffrances réfractaires qu'on ne peut pas soulager et que la médecine, aujourd'hui, ne peut pas soulager. Et pour ces trois raisons, c'est-à-dire pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité, il faut une loi. Et je vous dis, c'est une loi pour tout le monde. Ce n'est pas une loi pour une catégorie, c'est une loi qui permettra à chacun de choisir quelle doit être sa fin de vie. Parce que, et c'est le président de la République qui disait ça à un moment, même s'il a changé d'avis, c'est pas celui qui est à côté du lit qui doit décider, c'est celui qui est dans le lit. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, à la DMD, on se bat pour que ce soit un débat républicain, pour que ce soit la volonté de la personne qui soit entendue et qu'on arrête de faire de ça un débat médical. Ça n'a pas lieu. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant. Alors, on va entamer le dialogue, parce que j'étais peut-être un peu long.
Oui, vous avez abordé le problème de l'euthanasie pour des patients qui peuvent exprimer leur volonté. Mais il est des cas où des patients ne peuvent pas exprimer leur volonté. Je pense à la mort clinique consécutive à des accidents. Quelle est la position ? Est-ce que l'ADMD a réfléchi à ce problème-là ? Et est-ce qu'elle a des propositions à faire, à inscrire dans une éventuelle loi ?
Alors, vous savez, l'ADMD n'a rien inventé dans ce domaine-là. Je vous dis, nous avons regardé, nous, ce qui se passait à côté. Nous avons regardé ce qui se passait, notamment dans les pays qui ont la législation la plus aboutie et la plus respectueuse de chacun, c'est-à-dire la Belgique et la Hollande. Y a donc, comme vous le dites, deux situations. Vous êtes en état de dire ce que vous souhaitez pour vous. C'est simple. Vous pouvez le dire, vous pouvez l'exprimer. Vous êtes, par contre, dans le coma. Eh bien, ou dans d'autres situations. Nous, nous estimons que doivent être respectées les directives anticipées de la personne ou ce que certains ont appelé le testament de vie. Vous avez la possibilité, c'est d'ailleurs reconnu aujourd'hui dans la loi Leonetti, le seul problème c'est que c'est le médecin qui décide ce qu'il veut faire par rapport à ça. Vous avez la possibilité, tant que vous êtes conscient, de pouvoir écrire vos volontés. Nous, par exemple, à la DMD, nous avons aussi une carte d'adhérents sur lequel nous écrimons, je peux vous la montrer, j'ai dans mon portefeuille, toujours à côté de ma carte vitale, au cas où il m'arriverait un accident dans la rue, dans lequel je dis, voilà, dans telle et telle circonstance, je ne souhaite pas être réanimé, et le médecin, logiquement, doit suivre ça. Eh bien, nous, pour les personnes qui ne sont pas en état, celles, et c'est ça l'intérêt, d'abord de parler de la mort avec ses proches, et puis d'y avoir réfléchi, c'est d'écrire ce qu'on souhaite. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on doit respecter la volonté de la personne. Écrire, ça veut dire donc énumérer toutes les situations dans lesquelles on n'accepterait pas d'être réanimé, par exemple, ou qu'on souhaiterait que les traitements soient suspendus, voire d'être aidé quand il y aura une loi dans notre pays, et dans laquelle on désigne une personne pour nous représenter. Et que ce soit cette personne qui dise le mieux pour nous. Alors cette personne, évidemment, je vous le dis tout de suite parce qu'on en parle souvent à la DMD, il ne faut pas choisir forcément quelqu'un de sa famille. Moi, je n'ai pas choisi ma mère pour décider de ça, parce que c'est des choses extrêmement compliquées. Il faut toujours choisir une personne proche, un ami. Mais en tout cas, c'est cette personne qui pourra parler pour vous et qui donc décidera et dira au médecin, voilà quelle était la volonté de cette personne quand elle a pu s'exprimer. Et puis c'est donc cette personne qu'il faudra entendre. Mais je vous rappelle, aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas possible. D'une part parce que la loi légalisant l'euthanasie n'existe pas. Et d'autre part, même dans le cadre de la loi lénotique, c'est-à-dire qui permet de refuser les traitements, c'est l'équipe médicale qui décide en dernière instance. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est par exemple dans un coma irréversible. Il a écrit des directives anticipées. Il peut être par exemple membre de la DMD. Le médecin va consulter cette directive, va entendre son représentant, mais s'il n'est pas d'accord avec cette personne, si c'est en tout cas pas son souhait, eh bien il va pouvoir passer outre. Et ça, on estime que même dans le cadre de la Lionetti, c'est tout à fait inacceptable. C'est d'ailleurs peut-être, enfin je l'espère, sous le contrôle des parlementaires, une des rares avancées qu'il y aura dans le projet Lionetti, c'est qu'il va quand même accepter que le mandataire qui a été choisi au moment où la personne était sain d'esprit, était capable, était consciente, puisse au moins être entendu et respecté, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, tout simplement, des directives anticipées, il faut bien sûr les écrire. Si vous n'avez rien écrit, c'est sûr qu'on ne peut rien faire. Parce que nous, vous savez, on part vraiment de l'idée que c'est la volonté de la personne. Donc l'importance pour chacun d'entre nous, même quand on est très jeune, parce que vous avez vu, la fin de vie, ce n'est pas à 95 ans forcément. Le petit jeune Salva, il avait 23 ans. Vincent Humbert, il avait 20 ans. Des accidents de la vie, ça nous arrive à n'importe quel âge. Et donc il faut, et oui, il faut écrire, il faut parler avec les siens. Et quand vous avez écrit vos volontés, il faut bien sûr les renouveler, parce qu'évidemment, il faut les renouveler régulièrement. Hein, c'est tous les 3 ans dans la loi Lionetti. C'est pareil d'ailleurs en Belgique, c'est pareil en Hollande, parce qu'il faut réfléchir régulièrement à ces problèmes. Mais évidemment, si vous n'avez rien écrit, là, dans ce domaine-là, nous estimons que ce n'est pas à la société à décider d'arrêter. Éventuellement, il peut y avoir à ce moment-là une discussion avec les familles. Mais en tout cas, la seule garantie d'être respecté, et la seule chose qui soit en tout cas la plus sûre pour éviter toute dérive économique qu'on pourrait avoir, c'est d'écrire ses volontés et que ses volontés soient respectées.
Je m'adresse à vous, Madame la Présidente. Je suis Monsieur Bougier. Je représente Madame Porcheron, la présidente départementale de la Ligue contre le cancer. Elle est retenue à une autre réunion, donc je voudrais que vous marquiez dans le rapport de cette réunion sa présence qui est représentée.
Bien, monsieur, oui, c'est noté, on le signalera. Merci voilà. De votre présence.
Monsieur le Président, combien d'années devrons-nous attendre avant que le chamoine de la transe s'oppose au pape ?
Si j'avais une boule de cristal, je vous le dirais, mais je ne serais pas sûr d'avoir raison. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que c'est difficile. Je suis comme vous, je me dis comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans le pays des droits de l'homme, on n'arrive pas, même pas à avoir un débat serein dans notre pays, comment on n'arrive pas à avoir un vrai débat parce que c'est un débat médical qu'on nous oppose alors que c'est pas le problème. Je suis comme vous, mais je crois quand même que les choses avancent, pas suffisamment à notre avis, mais elles avancent et elles vont avancer de plus en plus pour une simple chose, c'est que aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui vont crier leur drame. Alors on les pousse pas à faire ça, vous savez, c'est très difficile, hein, je vous le disais tout à l'heure, quand on est comme ça dans des souffrances atroces, de devoir parler dans les médias. Mais le drame de Vincent Humbert, les cris de Chantal Sébir, récemment les cris de Rémi, ont fait qu'un certain nombre de gens, ben ils ont envie de parler. Et je crois qu'à un moment, le pouvoir politique, il ne pourra plus tenir. Parce que si aujourd'hui, il est dans ses certitudes, et c'est vrai, ce n'est pas le cas heureusement de tous, mais il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui croient que, d'abord, parler de la mort, pour certains politiques, c'est presque un gros mot. Parce qu'ils pensent tous qu'ils vont mourir de leur belle mort, d'une crise cardiaque, et que la maladie, la souffrance, ça ne va pas les concerner. Et que, voilà, en politique, il faut toujours être très fort. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des vies différentes, qu'on vit de plus en plus vieux, mais avec aussi des accidents de la vie, et qu'il n'y a pas honte de parler de ces accidents de la vie, qu'il n'y a pas de honte de parler de ces maladies. Moi, je me souviens quand André Labarrère avait parlé de son cancer, moi, j'avais trouvé ça extrêmement courageux. Et voilà, et ça montrait aussi que, bah oui, les préoccupations des gens, il avait forcément les mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue notre combat. Et ce combat, il faut qu'on le mène non seulement dans les salles ici, mais il faut aussi qu'on le mène à l'extérieur. L'intérêt de la journée mondiale mondial pour le droit de mourir dans la dignité. Ça va être bien sûr en France de dire, voyez, on n'est pas quelques petits Gaulois qui nous battons pour une énième loi. C'est une demande universelle. Et je crois qu'il faut maintenir cette pression. Parce qu'il n'y a pas de secret. Quoi. Si une association réunit autant de gens, si on réussit à avoir des délégués dans tous les départements, à avoir autant d'adhérents, c'est que ça répond à une demande et que les gens, aujourd'hui, ils ne vont plus supporter longtemps ce que nous disent les politiques. Et croyez-moi, les choses changent. On voit la politique est en train de changer. Et dans ce domaine-là, on ne va plus pouvoir longtemps tenir. Alors, c'est dur pour vous, pour moi, pour nous tous qui nous battons. Mais je crois que c'est cette pression qu'on fera qui va faire que demain, bah, les politiques vont l'entendre. Et peu à peu, d'ailleurs, des avancées. La loi Leonetti, c'est quand même une avancée. Elle n'est absolument pas suffisante pour nous. Mais ça a quand même été une avancée. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs, d'une certaine manière, dans cette loi reconnue, une euthanasie active indirecte. Même s'ils ne supportent pas qu'on utilise ces mots-là, deux exemples. La sédation palliative terminale, ce qu'ils ont proposé à Chantal Sébir. La sédation palliative terminale, c'était de dire à Mme Sébir, vous êtes en fin de vie, parce qu'elle l'était, on a entendu aussi des choses atroces sur elle. Elle avait en gros, selon les médecins, 2 mois de vie maximum. C'est de lui dire, écoutez, madame, vos souffrances sont insupportables, votre maladie est irréversible, etc. Qu'est-ce qu'on vous propose ? Ben, on va vous endormir. Et puis, on ne va plus vous hydrater, on ne va plus vous alimenter. Et puis, entre quelques heures, voire 15 jours, Terry Schiavo a mis 15 jours hein, aux États-Unis pour mourir, le petit Pierrat a mis 8 jours, eh bien, vous allez mourir. On voit l'hypocrisie de tout ça, quelque part. Quand on endort la personne, on sait qu'elle ne se réveillera jamais. Le médecin qui commet ça et qui nous dit que ce n'est pas de l'euthanasie active, excusez-moi, pour moi, c'est de l'euthanasie active, on endort quelqu'un dont on sait qu'elle ne se réveillera jamais. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est à quelle heure et quel jour elle va mourir. Est-ce que franchement, alors ça peut satisfaire un certain nombre de personnes, et c'est pour des gens par exemple très catholiques, etc., ou pour un certain nombre de personnes, ça peut. Mais pour certains, c'est extrêmement violent. Chantal Sébir n'avait pas envie que sa petite fille de 12 ans la voie pendant plusieurs jours mourir. Elle avait envie de lui dire au revoir et de partir tout simplement. Elle n'avait pas envie que sa fille soit obligée d'attendre et soit peut-être même pas là au moment où elle allait mourir, parce que si ça dure 8 jours, eh bien oui, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans nos hôpitaux. La plupart du temps, on n'est pas à côté de nos proches. Mais avouons que quelque part, pour moi, ça, même si ça ne leur plaît pas, c'est de l'euthanasie active. La seule chose, c'est qu'évidemment, elle est indirecte. Deuxième chose, ce qu'on appelle le double effet qu'autorise aussi la loi Leonetti. C'est-à-dire qu'elle autorise à des médecins à donner un médicament, par exemple de la morphine, dont on sait que le double effet, ou l'effet secondaire, sera d'entraîner la mort. On voit que là-dedans, on est dans une hypocrisie, surtout vis-à-vis de certains médecins qui savent que si on met telle dose, bah, la personne va mourir. Donc on voit que dans ce domaine-là, on est quand même dans une hypocrisie autour des mots qui est incroyable, comme de toute façon on est dans une hypocrisie générale dans notre pays, parce que j'en parlais pas tout à l'heure, mais il faut aussi savoir qu'on ne veut pas légiférer dans notre pays, mais on sait que la loi n'est plus appliquée. Quand vous, alors le mot euthanasie n'est certes pas dans le code pénal, mais bon, c'est un homicide, c'est un crime, c'est un meurtre, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand des gens sont traînés devant les tribunaux, devant les cours d'assises notamment, eh bien, ils sont tous acquittés, si c'est bien sûr par compassion. De toute façon, si ce n'est pas par compassion, c'est un crime. Ça n'a rien à voir avec de l'euthanasie. Si c'est quelqu'un qui aide à mourir un de ses proches pour hériter, ça n'a rien à voir avec de l'euthanasie. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais dans tous les cas, donc ça prouve qu'en plus, aujourd'hui, on est dans une hypocrisie royale. C'est que la loi n'est plus appliquée, n'est plus applicable, mais on ne veut rien faire. On préfère rester dans cette espèce de statu quo, dans cette espèce d'hypocrisie. Et c'est pour ça que, de toute manière, peu à peu, Et j'ai un peu digressé, monsieur, pour vous répondre. Mais peu à peu, on va y arriver. Mais ça nécessite que nous, on parle, qu'on n'ait plus peur. Parce que pendant longtemps, on nous a tellement montré du doigt, comme si on était une secte. Nous, on défend la liberté de tout le monde. Eh bien, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle dans nos familles. Il faut qu'on soit partout présent. Parce que cette volonté qu'ont les Français, on l'a vu quand on a fait l'opération sans marché dans toute la France, qui se sont transformés en 200 marchés, partout où on allait, alors on avait de temps en temps une personne qui venait nous insulter, mais la plupart des gens nous disaient bravo, mais battez-vous, on vous avait jamais vu dans les rues, on est d'accord avec vous, et c'est cette idée, c'est ça qu'il faut faire, c'est aller au-devant des gens, et plus on ira au-devant des gens, je peux vous dire, plus à un moment ce sera insupportable et plus on avancera. On a eu la loi Leonetti, on aura quelques avancées très mineur. J'espère qu'on aura l'observatoire sur les fins de vie qui leur posera des problèmes dans un an ou deux, parce que dedans, quand on verra les conditions de certaines fins de vie, qu'est-ce qu'ils feront quand ils verront les conclusions ? Il faudra bien qu'ils légifèrent. On aura peut-être la possibilité, je dis que la procédure collective que j'évoquais tout à l'heure soit enclenchée par le mandataire, par la famille, pour une personne qui n'est pas consciente, ce sera encore une avancée, pas suffisante, mais c'en sera une. Et je pense qu'à un moment, les digues vont sauter et qu'il faudra dans notre pays, eh bien, qu'évidemment, on avance. Et pour ça, il faut que les uns et les autres, on soit fiers de défendre cette liberté, parce que nous, on défend la liberté de tout le monde et pas la liberté d'une catégorie de Français.
Merci, Monsieur le Président, pour votre brillant exposé.
Oui, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'aujourd'hui, les effets indésirables des traitements pour le cancer ne sont pas traités dans les hôpitaux. Cependant, une évolution se dessine, et moi-même j'en ai bénéficié puisque je suis atteinte d'un cancer. Des médecines complémentaires non conventionnelles entrent dans les hôpitaux publics français, notamment à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, à l'Institut Curie de Paris. Et bon, c'est assez prometteur, mais c'est encore très marginal, hélas.
Non, mais madame, de toute façon, on souhaite tous, c'est l'époque où on parlait de la morphine, c'est pas si vieux que ça. Je vous rappelle aussi que sur la morphine, c'était aussi les mêmes arguments. Les médecins disaient surtout pas de généralisation de la morphine dans notre pays. Donner de la morphine, c'est tuer. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est évidemment d'accord qu'on peut pas laisser les gens souffrir. Et vous parlez de votre maladie. Moi, je sais aussi ce que c'est, ce que je vis aussi avec un virus mortel. Donc, je sais quand même ce que sont les souffrances. Et évidemment, il faut évidemment que ça avance. Mais même quand les choses auront avancé au niveau physique, il y a aussi des souffrances, il faut quand même le savoir, puisque un certain nombre de personnes le vivent et l'ont vécu. Il y a les souffrances physiques et il y a les souffrances psychiques. Et ces souffrances psychiques, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas toujours grand-chose à mis à assommer les gens. Ça, c'est une, voilà, mais ça peut être un choix. Vous pouvez aussi refuser d'être assommé pour vos derniers jours, d'être assommé de médicaments pour ne plus avoir conscience et ne plus parler. C'est aussi votre choix que de refuser ça, comme ça peut être aussi le choix. Puisqu'aujourd'hui, la seule chose qu'on propose, c'est les soins palliatifs, ceux qui peuvent en bénéficier. Mais aussi, on peut refuser les soins palliatifs. Il y a des gens qui refusent parce qu'ils estiment que c'est contraire à la façon de mourir qu'ils souhaitent. Et on doit aussi pouvoir les autoriser à refuser cela.
Oui, non, je ne parlais pas des sédatifs, je parle de médecine non conventionnelle, genre auriculothérapie, réflexologie, sophrologie, qui n'existait pas qui n'était pas mise en œuvre dans les hôpitaux jusqu'à il y a 2 ans et qui maintenant pénètre dans les hôpitaux.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. En plus, ça pourra avancer. Peut-être qu'on lui donne la parole au député. Parce que si jamais il part en plus, parce qu'on a donné la parole aux deux autres. Attends, d'abord, si vous pouvez. Juste monsieur, d'abord.
Jean-Michel.
Je lui ai promis depuis un moment.
Non.
Et puis après, vous. Là, après.
Merci.
Après, ce sera votre tour, hein, promis. Mais ça fait un moment que je l'ai dit.
Non, mais c'est. D'abord, monsieur le président, je voulais vous remercier de la qualité de votre intervention. Et en tout cas de la sincérité et la profondeur de l'argumentation que vous avez pu développer. Je connais votre association pour avoir lu un certain nombre de ses publications, ses écrits, et je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à la question telle qu'elle est posée aujourd'hui à tous nos concitoyens. Mais ce que je voulais vous dire aussi en même temps, c'est qu'en tant que parlementaire, j'espère que nous allons pouvoir légiférer prochainement, mais que lorsque vous êtes face à cette décision, je peux aussi comprendre que certains de mes collègues soient face à un certain nombre d'éléments qui font appel à la conscience. Et tout à l'heure, dans vos propos, j'essayais d'apprécier la situation du médecin face à quelqu'un qui est dans une situation de coma avec la situation de quelqu'un qui est face à une décision qui l'accompagne. Et je pense que qui souhaite effectivement aller vers cette décision finale, je pense qu'il faudra arriver à résoudre cette équation pour que on puisse faire franchir la dernière barrière qui freine dans l'esprit d'un certain nombre de mes collègues, parce que c'est vrai que si on est médecin, si on a une approche par la médecine, on a forcément une approche différente que si on a une approche par la conscience. Et je crois que on est proche de cette loi, on est proche de ce texte. Encore faudra-t-il franchir une dernière étape. Alors, je ne sais pas si votre association pourra pousser, je dirais, jusque jusque là où c'est nécessaire. En tout cas, je suis certain que des conférences comme ce soir y procèdent véritablement, et je vous encourage à les multiplier, en tout cas à l'endroit de certains de mes collègues parlementaires. En tout cas, moi j'étais avant ce soir peut-être encore sur certains aspects d'interrogation. Je pense que vous les avez fait tomber. Donc je pourrais compter sur ma contribution au soutien de ce texte.
Il est un petit peu désespérant de voir qu'il suffit que Jean-Luc Romero vienne à Poitiers pour convaincre Jean-Michel Clément, alors que nous tous l'entourons en longueur d'année, que nous n'y étions pas parvenus. Bravo. Bravo, Monsieur le Président.
Non, mais il a fait ça aussi par délicatesse et je l'en remercie.
je voulais simplement dire une chose en tant que vieil adhérent maintenant de l'association. Il est vrai qu'il faut une loi pour échapper à la souffrance, qu'elle soit de la fin de vie, qu'elle soit physique ou psychique. Et ça, Monsieur le Président, vous l'avez fort bien exprimé. Mais je crois qu'il y a quelque chose de quand même de beaucoup plus fondamental que ça. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, a permis effectivement aux femmes d'échapper aussi à beaucoup de souffrances et à créer, leur éviter de créer des souffrances. Mais elle répondait à un principe fondamental qui était le droit des femmes de disposer de leur corps. Ce que je revendique pour moi-même et ce que je revendique pour les autres, c'est le droit que j'ai de disposer de ma vie. Lorsque j'ai fait face à mes devoirs, autrement je dis, j'ai eu des enfants, je les ai élevés, j'ai terminé ma course, j'ai le droit de disposer de ma vie, et je demande à la collectivité de vouloir bien m'y aider. Car je pense que le droit de terminer sa vie dans la dignité, c'est aussi le droit de choisir le moment où l'on quitte la table. Que l'on souffre, que l'on ne souffre pas. Je ne voudrais pas qu'on limite cette droit à une fin de vie dans la dignité face à la souffrance. Ce n'est pas seulement face à la souffrance. C'est aussi, à un certain moment, on a fait ce qu'on avait à faire sur cette terre. Merci.
Alors, moi, j'entends ce que vous dites, mais j'entends aussi ce que vont dire nos adversaires. Eh oui, mais attendez, ce qu'il faut... Vous savez, c'est toujours facile de vouloir tout. À un moment, il faut avoir ce qui existe. Il y a, excusez-moi de le dire, aucune loi qui existe comme ça. D'ailleurs, quelles limites on y mettrait ? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le jeune qui n'a pas votre expérience ni la mienne et qui croit à 20 ans que sa vie est finie parce que sa copine l'a quitté. Je pense que là-dessus, il faut être extrêmement prudent. Je crois qu'il y a... Moi, le suicide dans notre pays est bien sûr légal. Il ne s'agit pas d'y revenir. D'ailleurs, il faut aussi qu'on revoie des choses qui ne sont pas très claires puisque en ce moment, on voit toutes les procédures qui sont engagées contre ce pauvre Rémi. Enfin... je pourrais vous donner des détails, j'étais avec ses parents encore lundi, c'est sordide ce qui se passe dans notre pays là-dessus, autour de Chantal Sébir, parce que pour moi, logiquement, quand on regarde les textes, l'aide au suicide ne devrait pas être pénalisée, puisque le suicide ne l'est pas. Et évidemment, on a des avis opposés. Il y a une semaine exactement, j'étais au Touquet, à la réunion des avocats, et il y avait plusieurs magistrats, donc le premier président de la cour d'appel de Douai, qui lui disait, mais bien sûr, l'aide au suicide est pénalisée, nous donner les articles, la jurisprudence, etc. Donc déjà, là-dessus, il faudrait qu'on avance. Et ça, je suis d'accord avec vous, parce que si on dit dans notre pays que le suicide est légal, on ne peut pas quand même pénaliser l'aide de ceux qui l'ont fait à la demande d'une personne. Et ça, c'est totalement contradictoire. Mais en même temps, je vous dis, faisons attention aux choses. Moi, j'entends par exemple les seniors. Un certain nombre de seniors qui me disent aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon chemin, etc. Moi, je veux bien l'entendre. Sauf qu'aujourd'hui, la loi, qu'est-ce qu'elle mettrait dans la loi ? Elle mettrait qu'à partir de 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans ? Vous voyez, c'est très compliqué. D'abord, on sait tous que pour les seniors, à un certain moment, quand ils en ont marre de la vie, parce qu'en général, la plupart d'entre nous, on a envie de vivre le plus tard possible, c'est quand ils ont un certain nombre de souffrances qui s'ajoutent les unes aux autres, qui fait que, ce qui se passe d'ailleurs en Belgique et en Hollande, toutes ces souffrances ajoutées, bien sûr, qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent. Mais je dis qu'il faut faire très attention. Je crois qu'il faut qu'on demande le maximum, c'est-à-dire la loi belge, qui est quand même une des lois les mieux faites. Enfin, la loi luxembourgeoise, a priori, a l'air pas mal aussi, mais elle n'est pas encore adoptée définitivement. Mais la loi belge, parce qu'en plus, il y a du recul, et que ça, c'est extrêmement... Enfin, logique à demander. Et croyez-moi, quand on demande ça, mais c'est des révolutionnaires. Parce que la seule chose qui faisait un peu consensus, c'était l'exception d'euthanasie. Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, que ce n'est pas méta, que c'est une hypocrisie. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont sincères là-dessus. Par exemple, Marie Imbert défend l'exception d'euthanasie. Mais je lui ai expliqué plusieurs fois, elle défend la même chose que nous, sauf que bon, elle n'a pas vraiment compris ce qu'il y avait derrière, qu'elle ne pouvait pas le mettre en œuvre. Parce qu'elle croit que d'un seul coup, l'État va trouver plein d'argent pour tout ça. On sait tous que ça ne va pas se passer comme ça. On n'est pas naïfs les uns les autres. On connaît malheureusement le fonctionnement. Mais je crois qu'il faut être dans ce domaine-là, demander la légalisation de l'euthanasie telle qu'elle existe dans les autres pays, ce qui est énorme. Et puis après, bien sûr que peut-être la société devra continuer à réfléchir à un certain nombre de choses. Mais en tout cas, faisons attention à ne pas être des extrémistes dans ce domaine-là. On attend que ça de nous. On attend, vous savez, moi j'en ai fait combien de débats, on m'a dit, mais vous voulez tuer les seniors? Alors que nous, moi c'est tout le contraire, d'abord je veux qu'on respecte la volonté des gens. Et puis quand on dit, mais quand certains d'entre nous, parce que c'est un débat qu'il y a au sein de la DMD, c'est normal, c'est ça, on est association démocratique, heureusement qu'on a ce genre de débat, c'est qu'on nous dit, comment on l'écrit cet article que vous me dites avec votre volonté? Comment on l'écrit? Ben moi j'ai pas la recette, et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui pouvait me l'écrire de telle manière aussi, qu'est vrai, il n'est pas question non plus de pouvoir aider quelqu'un on a tous eu à 30 ans, 40 ans, 50 ans une dépression nerveuse. On a tous eu des moments difficiles dans la vie et à ce moment-là, on croit que tout est fini. Et puis après, les choses reviennent. Je crois que dans ce domaine-là, il faut qu'on soit quand même extrêmement prudent, qu'il faut qu'on choisisse ce qui existe et ce qui existe de mieux parce que nous, on a de la chance, contrairement aux Belges et aux Hollandais où ils ont fait leur propre législation. Nous, on n'a qu'à copier. Alors, moi, j'entends ce que vous dites, mais je dis faisons attention, parce que si on s'engage là-dessus, on est sûr de rien obtenir. Quand on entend, vous êtes plus que le seul parlementaire, mais tout à l'heure, vous étiez trois ici. Je pense que tous les trois, vous auriez dit la même chose, que si on va en plus vers des choses qui sont extrêmement difficiles à écrire, et vous pouvez nous le dire, écrire une loi, c'est quelque chose de compliqué, surtout dans ces choses-là. On n'arriverait pas à trouver les limites de cette loi et là, on n'a aucune chance de la voir aboutir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable, il faut dire... Et c'est pour ça qu'à la DMD, aujourd'hui, on a un discours simple. On leur dit plus, regardez notre proposition de loi, on vous l'a envoyée en tant que parlementaire, on l'a envoyée à tous les parlementaires, mais nous, tout ce qu'on leur dit, bah, notre loi, c'est en gros ce qui se passe en Belgique et en Hollande. Faites ça, et ça, c'est important, et ça résoudra la situation de quasiment tout le monde. Et puis après, on verra pour certaines choses. Le débat qu'il y a aujourd'hui, par exemple en Belgique, sur les mineurs, parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'un mineur entre 16 et 18 ans, il a quand même une vraie volonté. Aujourd'hui, ils n'ont pas résolu encore ce problème. Ils ont des débats chez eux. Ils vont voir comment on peut faire avec un accord. Parce que c'est compliqué aussi par rapport à cette question-là. C'est une question très importante. En Hollande, ils ont réussi plus ou moins à résoudre ce problème-là. Pas encore en Belgique. Ils y réfléchissent. Et je crois que sur ces questions-là, c'est vrai qu'il faut là-dessus le faire avec mesure. Et en tout cas, ne pas réclamer plus que ce qui existe dans tous les pays. Parce que je vous dis, quand on n'a rien... Il y a un moment, il ne s'agit pas seulement d'aller par étapes, je ne vous dis pas ça, parce que je crois que si on avait cette loi-là, ce n'est pas une étape, c'est une vraie révolution dans notre pays. Demandons ça et faisons attention de ne pas tomber dans le piège qu'on veut nous tendre, même s'il n'est pas légitime. Je vous ai dit, ils sont là. Nos adversaires ont des moyens que nous n'aurons jamais. Hein, vous savez, certaines des associations que je ne vais pas citer ici, elles sont soutenues par l'Opus Dei, elles n'auront jamais les moyens d'une ADMD en face de ça. On n'aura jamais la puissance même auprès des parlementaires. Parce que Christine Boutin, elle a organisé des parlementaires, les parlementaires pro-life qui se battent sur plein de questions autour de ça. Nous, personne, ni à gauche ni à droite, n'a organisé une task force de parlementaires qui s'opposerait à ces gens-là. Ils sont minoritaires, certes, mais comme eux, ils sont organisés, qu'ils sont les seuls à être organisés. Mais ils font que les choses n'avancent pas et que parfois même elles peuvent reculer. Parce que regardez, on parlait de l'IVG tout à l'heure, mais on croit que c'est un truc acquis. Mais moi, je suis élu d'Île-de-France. Moi, je suis désolé, il y a des tas de femmes en Île-de-France, elles ne trouvent pas à avorter dans les 12 semaines. Eh bien oui, c'est cette réalité-là, parce qu'il y a de moins en moins de structures, et que ce droit, aujourd'hui, il est difficile, et que quelque part, si on n'y prend pas garde, on va pouvoir revenir en arrière. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit à la fois déterminé, mais en même temps, qu'on ne demande pas l'impossible. Parce que l'impossible, on ne l'aura pas. Et alors que je pense que de demander une loi comme en Belgique, eh ben on peut l'avoir, mais il faut qu'on se batte, il faut qu'on convainque. Vous l'avez dit, on va partout, monsieur le député, pour essayer de convaincre. Je trouve que c'est plutôt réussi pour votre département. Vous y étiez trois, a priori, il y a trois parlementaires. Je ne sais pas combien vous êtes de députés et de sénateurs ici, mais c'est déjà pas mal. Si dans chaque département, on réussissait à en avoir autant, on gagnerait notre, je veux dire, on gagnerait notre loi. Et puis, c'est de leur expliquer que cette loi, et je crois que là-dessus, je pense que c'est un peu clair, et je crois que nous, ceux qui sont ici militants de la DMD, n'oubliez pas, ce n'est pas une loi pour vous que vous défendez. C'est bien sûr que vous en profiterez. Mais si on milite à la DMD, c'est parce qu'on veut une loi d'intérêt général. Et c'est justement ça qui fait peur à nos adversaires. C'est de montrer que nous, contrairement à eux, on se bat pour une loi qui garantisse la liberté de tout le monde, la liberté de ceux qui veulent mourir tard dans la souffrance, si c'est leur choix, et la liberté d'autres qui veulent, comme nous, on le souhaite, pouvoir accéder à une aide active à mourir. Bien sûr, je le dis quand même, dans des conditions, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi.
Monsieur le Président, pour moi...
Je ne sais pas si on est en train, je dis qu'ils sont en train de la suite, les gens sont en train de partir au fur et à mesure.
Monsieur le Président, pour moi, je vois deux conditions essentielles à mettre dans la loi. C'est, un, être atteint d'un mal incurable ou d'un handicap irréversible. Est-ce que vous voyez d'autres conditions à inscrire dans la loi pour pouvoir bénéficier de l'aide ?
Non, mais je ne dirais pas le mot handicap irréversible parce qu'il me gêne. Je dirais, c'est ce qu'on a choisi dans notre proposition, c'est pour pouvoir inclure des cas comme Vincent Imbert, des cas comme Rémi Salva, qui ont donc Rémi Salva, une maladie dégénérative qui allait faire qu'à un moment, il allait même perdre conscience totalement. Vincent Imbert, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans la situation de Vincent Imbert qui ont envie de continuer de vivre. C'est de dire que des gens qui sont dans une situation qui est contraire à leur dignité, et c'est pour reprendre évidemment ce choix-là, parce que utiliser le mot handicapé, pour moi, me gêne. Parce qu'évidemment, c'est encore aussi, les deux accusations qu'on nous fait, c'est de dire ils veulent tuer tous les vieux et ils veulent tuer tous les handicapés, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là. Mais je trouve qu'utiliser le mot handicap, ça peut d'abord être insultant pour des personnes handicapées qui ont envie de vivre. Voilà, donc je pense qu'on peut le trouver d'une autre formulation pour que ça en vienne à ça. D'ailleurs, regardez, les lois belges et hollandaises n'ont pas utilisé ces mots-là à juste titre, hein, parce qu'il ne s'agit pas du tout de vouloir supprimer les personnes handicapées, et il ne s'agit pas, justement, faisons aussi attention au genre de choses. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une affaire qui a ému beaucoup de gens à la DMD, qui est cette maman qui a aidé son enfant à mourir. Certains ont entendu à la télévision euthanasie. Pour moi, c'était pas de l'euthanasie, parce qu'on ne savait pas quelle était la volonté de cette fille. Et faisons très attention à pas tomber dans ce piège. On est tous d'accord, on était très contents que la cour d'assises l'ait acquittée, et moins contents que parce qu'il y avait derrière, on comprenait la souffrance de cette femme. Mais en même temps, faisons attention, parce que ça, c'était pas de l'euthanasie. Parce que si ça, c'est de l'euthanasie, ça veut dire que demain, tous les parents qui vont aider un enfant handicapé à mourir, où on va ? Donc il faut qu'on fasse aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention et ne pas parler parce qu'il n'y est pas question, parce que on peut être handicapé, c'est pas incompatible à vivre une vie digne, bien au contraire, mais qu'il y a des gens qui, dans la situation de Vincent Imbert, peut-être nous, qui sait, peuvent trouver que cette situation est acceptable. Ce qu'il faut, c'est en tout cas qu'on puisse choisir, qu'on ait ce choix-là, parce que ici dans la salle, moi, je suis sûr que personne d'entre nous, c'est ce qu'il va vouloir à la fin. Nous, on se bat parce qu'on sait qu'on va avoir le choix. Mais qui vous dit que, quelque part, on ne va pas vouloir vivre le plus longtemps possible ? Pourquoi ? Parce que peut-être il y a un petit enfant qui va naître. Donc, on a envie absolument de le voir. Et donc, à ce moment-là, on va vouloir vivre plus longtemps. Ou le contraire. Moi, j'ai eu deux exemples dans mes proches. J'ai eu une de mes grand-tantes qui était une militante de la DMD et qui, pendant un an, a mis un an à mourir. Et tous les jours, elle me disait, je l'appelais tous les jours au téléphone, et elle me disait, c'est formidable, j'ai encore gagné une journée. Et moi, j'étais étonné, elle était dans son lit, c'était tout ce qu'elle ne souhaitait plus avoir. Et puis, j'ai eu le contraire. Une autre grand-tante, c'était un peu la coïncidence, qui, elle, était catholique, fervente, etc. et qui, elle, n'en pouvait plus. Et réclamait, il disait, mais pourquoi on continue à me laisser vivre? Je n'en peux plus de ces souffrances, cette vie ne sert plus à rien. C'est pour ça que notre loi, nous, elle est juste. Parce qu'elle permettra de respecter notre avis, même si on change d'avis, et puis de respecter nos adversaires aujourd'hui dans le débat, entre guillemets, idéologique, qui peut-être au moment où ils seront, au moment de la mort, ben, ils se diront, moi, j'en peux plus de ces souffrances-là. Et c'est pour ça que notre combat, il est juste, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le porte.
Je ne vais pas employer le mot handicap pour vous faire plaisir.
Non, mais.
Mais je pense comprendre et rejoindre un peu l'intervenant tout à l'heure. Il y a des gens qui se fixent des limites dans la dépendance. Et ça, ça peut très bien se comprendre.
Bien sûr.
Hein? Et je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu exprimer. Je me souviens des cas qui ont été évoqués au cours quand j'étais délégué de la DMD. Il y a des gens qui se sont fixés des limites, par exemple, quand je ne pourrai plus capable d'assurer ma toilette moi-même, voilà, hein, quand je ne pourrai plus me déplacer moi-même, etc. Ouais. Bon, ils ne sont pas en danger de mort immédiat, hein, mais enfin, je pense qu'il faut comprendre, et là c'est psychique, c'est effectivement, ils se sont fixés des limites, ils ne peuvent plus vivre dans ces conditions-là, et c'est un problème.
Mais ces conditions-là, avec un faisceau de choses, c'est ce qui se passe déjà en Belgique, ça, ce sera possible. Ça sera possible. C'est simplement, si vous êtes en pleine forme, c'est sûr que c'est un peu compliqué de... Mais bien sûr, là, je suis tout à fait... Et les lois qui existent le prévoient. Ouais. Ouais. Vous avez raison de préciser. Ah, il y a au fond...
Il y a de plus en plus de gens qui partent. Croyez-vous qu'il ne serait pas bon de faire circuler des bulletins d'adhésion, par exemple? Ah oui, parce que si vous voulez du monde, parce que plus ça va, moins on va être. Alors moi, je pense que rien que pour moi, il m'en faudrait déjà deux.
Ah bah,
ah oui,
il n'y a pas de problème.
Mais oui, non mais parce que les gens veulent rentrer, ils ont des bus à prendre. Bon, il faut penser à ça.
Eh bien, il y a des militants de la DMZ qui...
Il faut qu'il y ait le bulletin d'adhésion.
On en a beaucoup dans le couloir. On est parti vous en chercher.
Parfait. Mais vous savez, à la DMD, c'est là où vous avez raison. On est parfois un peu trop pudique, mais en même temps, voilà, on est ici pour d'abord essayer de dialoguer. Si vous voulez adhérer, vous êtes les bienvenus, parce que plus on est nombreux, mieux c'est.
Voilà, voilà.
En même temps, on vous aurait donné des bulletins dès le début. Vous auriez dit, mais ils se foutent de nous quand même. Et en même temps, je vous le dirai, en même temps, évidemment, je suis président, Anita est la responsable dans ce département. Plus on est content, parce que c'est vraiment une force. Mais en même temps, plus de gens sont convaincus, même s'ils ne sont pas adhérents de notre association, je peux vous dire que ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à convaincre des gens et que vous soyez derrière nous pour faire avancer cette question. C'est clair. C'est clair, d'autant que je peux vous dire une dernière chose là-dessus. La DMD est aujourd'hui une des rares associations qui ne demande pas de subvention. C'est-à-dire, alors tout à l'heure on en parlait avec votre ancien délégué, c'est peut-être quelque chose auquel le conseil d'administration va devoir réfléchir, mais la volonté de la DMD, bien avant que moi j'arrive, en tout cas depuis le début, ça a été de dire on ne veut pas de subvention, ni de l'État, ni des collectivités locales, comme ça on est sûr d'être indépendant. Ça a été une volonté, il faut savoir que c'est ce qui se passe. Alors notre association a quand même des moyens importants, parce qu'elle a 46 000 adhérents, mais elle n'a pas évidemment de moyens extérieurs. Et puis nous, on n'a pas l'Opus Dei qui nous aide. Alors c'est sûr que plus on adhérent, mieux c'est. Mais en même temps, c'est sûr que plus on convaincra aussi, mieux ce sera. Et puis on comprend aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. D'ailleurs, je vous le dis aussi, c'est un truc qui revient souvent. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'adhérents ici. Vous savez, dans notre association, il faut être clair. Quand les gens ont plus les moyens à un certain moment de payer, eh bien évidemment, vous le dites à vos délégués. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment que vous continuez à recevoir le bulletin. Évidemment que vous restez dans nos fichiers, parce qu'on sait que notamment certains seniors qui ont des retraites extrêmement faibles, mais il ne faut pas hésiter à nous le dire. Bien sûr qu'on va comprendre et qu'on ne va pas vous poser de questions, qu'on ne va pas vous demander votre feuille, que si vous venez nous voir en nous disant on ne peut plus payer votre cotisation, mais on vous défend, on veut toujours rester. Bien sûr que vous resterez membre de la DMD, c'est quand même la moindre des choses. Mais surtout, je sais que c'est difficile, donc n'hésitez pas à le dire à votre délégué. Et évidemment qu'au niveau national, on vous exonérera, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est vrai qu'il faut le redire souvent, ça, parce que...
J'avais une question peut-être un peu naïve, mais l'euthanasie implique-t-elle nécessairement un médecin, enfin le corps médical? Est-ce qu'on a le choix, enfin, ou est-ce qu'il y a différents modes d'euthanasie? Et un deuxième volet de la question, c'est je voulais savoir ce que vous reprochiez en fait plus précisément à la loi, enfin à la façon dont ça se passe en Suisse. Merci.
Alors, la façon d'être aidé est double. C'est soit ce qu'on appelle l'euthanasie active, c'est-à-dire on vous injecte, et là il faut que ce soit évidemment un personnel soignant, un médecin qui le fasse, on vous injecte un produit qui vous permet de vous endormir, soit vous prenez vous-même le produit, ça s'appelle le suicide assisté, c'est ce qui se passe en Suisse, mais c'est ce qui se passe aussi en Hollande, en Belgique, puisqu'il y a ces deux possibilités, c'est vous-même qui prenez le produit, ce qui est en plus une sacrée sûreté, parce que un, d'abord, ça évite aux médecins de le faire et ça arrange un certain nombre de soignants. Et puis deux, c'est vous qui le faites. Et donc, ça montre qu'il n'y a absolument aucun doute dans votre volonté de partir. Donc, voilà les deux modalités. Sur la Suisse, je n'ai pas dit tout à l'heure, je reprochais. Je dis que pour nous, il est quand même difficilement concevable qu'on soit obligé de partir dans un autre pays. Et je pense que ça, tout le monde peut en être d'accord. Ce n'est pas normal de devoir partir. Je vous dis d'abord, ça fait partir des gens d'une manière totalement prématurée parce qu'il faut pouvoir faire le voyage. Donc peut-être que vous pouvez vivre très longtemps après, mais que vous le faites tant que vous avez de la force. Et je trouve que ça, c'est pas normal de permettre ça. Qui nous dit que Maya Simon n'aurait pas eu des grands moments d'amitié, d'affection avec ses amis, avec ses proches? Mais si elle voulait être sûre de mourir comme elle le souhaitait, elle a été obligée de partir. Donc je dis que c'est pour ça que d'abord, il faut une loi. Alors sur la Suisse, moi j'avais été, comme beaucoup d'entre vous, très, très choqué par des reportages que j'ai pu lire et pu voir. Et j'ai voulu aller me rendre compte sur place. Et au mois de juillet, je suis allé avec Claudine Lassène, qui est la responsable médicale de l'association, rencontrer Dignitas et voir comment ça se passait là-bas. J'ai tout vu. Non seulement j'ai tout vu, mais j'ai eu en plus accès au dossier. Et c'est vrai que je suis revenu assez surpris. Il y avait deux choses qui m'avaient heurté. Bon, d'abord, j'avais quand même une certitude, c'est que, et peut-être qu'ici, des délégués ou anciens délégués peuvent le confirmer, tous les gens qui ont accompagné des gens en Suisse auprès de cette association qui s'appelle Dignitas, et quand il revenait, nous n'avions que des éloges sur cette association. Il faut le dire clairement, l'accompagnement, l'humanité de cet accompagnement et les fins de vie de ces personnes sont incroyables. Maya Simon, je reviens parce qu'elle a été connue et que ça n'a dû échapper à personne ici, une de ses amies est venue témoigner à une réunion de la DMD qui l'a accompagnée. Elle était absolument opposée à cette façon de mourir, mais elle avait accompagné Maya parce que c'était une de ses meilleures amies et que Maya lui avait dit je veux que tu fasses partie de ce voyage. Elle est revenue en ayant toujours des problèmes par rapport à cette question qui était difficile pour elle, mais en même temps elle avait eu, elle, son mari qui était mort quelques mois plus tôt dans une unité de soins palliatifs, et elle a été sidérée de la façon dont s'est parlé la mort de Maya, qui, les derniers mots, ça a été de dire à ses amis, je vous remercie d'être avec moi, c'est un jour merveilleux pour moi, je pars heureuse. Son mari, il ne pouvait même plus lui parler à la fin, et les dernières paroles qu'il avait, c'était des paroles de souffrance. Donc l'accompagnement, on n'a jamais eu aucun doute. On avait, moi, deux choses qui me posaient problème. D'abord, ce qu'on avait entendu des gens qui étaient morts avec l'hélium. Et on avait entendu, en plus, des façons présentées qui pouvaient être particulières. Plus les problèmes financiers qu'il y aurait autour de Dignitas. Alors, sur l'hélium, d'abord, je le dis moi-même là-dessus, je pense que j'avais un préjugé qui était assez mal fondé, parce qu'il faut savoir que c'est un masque que vous prenez et vous vous endormez immédiatement. Il y a une seule chose, ça peut être impressionnant pour des gens qui restent, puisque le corps bouge un peu après. Mais moi, c'est vrai que ce n'est pas le type de mort que je choisirais, mais en tout cas, est possible. Pourquoi Dignitas a aidé 4 personnes, et 4 personnes, pas plus, a aidé de cette façon-là. C'était à un moment où en Suisse, il y avait un débat très violent, après la mort de Maya Simon d'ailleurs, où on avait interdit à Dignitas d'avoir du pentobarbital pour aider les personnes à mourir. Et ils avaient, dans les semaines qui venaient, 4 personnes qui venaient pour être aidées, des gens qui, depuis des mois, avaient été vus plusieurs fois. Et ils ont dit à ces personnes, écoutez, on ne peut pas vous aider. On ne peut plus accéder aux médicaments, on nous l'interdit. Et les gens ont dit, mais attendez, moi maintenant on a notre fin de vie, etc. Comment on fait? Enfin, nous on veut pas mourir étouffé, on veut pas si, on veut que vous nous aidiez. Et ils ont dit, écoutez, il y a une seule solution, c'est l'hélium. Il n'y a pas de souffrance, mais ça peut être impressionnant pour vos proches. Ce ne sera pas cette fin paisible qu'on a quand on prend un produit. Vous avez tous vu Le Choix de Jean, je suppose. On s'endort paisiblement. Pour les proches, c'est absolument pas traumatisant. Et donc, ces 4 personnes ont dit, écoutez, nous, on veut partir. On s'en fout de la manière, du moment que vous nous dites qu'on n'aura pas de souffrance, qu'on ne va pas suffoquer, etc., qu'on ne va rien sentir. eh bien, aidez-nous comme ça. Et en plus, ce sera un geste militant qu'on fera parce que ça montrera aux autorités suisses que même s'ils ne donnent pas d'ordonnance, il y a un moyen de mourir paisiblement sans l'aide, ce médicament qui doit être absolument prescrit par un médecin. Et donc, ces quatre personnes l'ont fait volontairement et l'ont souhaité à la fois pour eux parce qu'ils voulaient partir et puis ils se sont dit, bah, quelque part, ça sera un geste militant. Après, les choses se sont un peu débloquées aujourd'hui. L'association Dignitas peut de nouveau avoir du pentobarbital. Donc, il faut savoir que ça a été fait avec la volonté des gens qui n'avaient pas d'autres possibilités et dans un moment un peu particulier et qu'en même temps, il n'y a pas de souffrance. Claudine Lassène qui m'accompagnait m'avait d'ailleurs dit, écoute, elle était réanimatrice. Elle me dit, mais tu sais, je t'assure, il n'y a pas de souffrance. Donc, ce premier dos a été levé. Le deuxième, c'est le côté financier. Alors déjà, il faut savoir qu'en Suisse, ils n'ont pas la même conception du bénévolat que nous. C'est-à-dire qu'il y a d'autres associations qui s'occupent du droit de mourir dans la dignité. Je pense par exemple à Exit. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais à côté du président d'Exit à un dîner et il me dit, moi, de toute façon, l'associatif, c'est une grande association comme la nôtre, ça prend trop de temps. Moi, j'ai demandé à être payé par l'association et il est payé par l'association pour faire son travail de président. C'est dans la mentalité suisse. Et puis, ça peut aussi se comprendre. Il faut quand même savoir ce que c'est. Hein. Moi, je suis président de cette association. Je ne vous casse pas que je passe au moins 3 journées par semaine sur le terrain ou au siège. C'est au détriment de mon travail, de ma vie, etc. Et ce n'est pas simple. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, le système associatif n'est pas le même que le nôtre. Donc, l'association Dignitas, c'est des professionnels. C'est des gens qui sont payés. Et on le conçoit. L'association Dignitas, qui reçoit à peu près 200 étrangers par an, qui les aident, il y a tout ce travail administratif à faire et il y a ce travail d'aide. Est-ce que vous pouvez concevoir, même si c'était dans le cadre de notre association, que quand les gens ils ont demandé à être aidés au bout d'un long cheminement, parfois certaines personnes, ça a duré un an entre le moment où ils se sont inscrits et l'évolution de leur maladie qui permet d'entrer dans les critères. Est-ce que vous croyez franchement que au moment où les gens arrivent, on pourrait dire, ah bah écoutez, non, on n'a pas de bénévoles, ils sont partis en vacances, ils n'ont pas envie de le faire parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là. Vous imaginez que pour ce genre de choses, il faut qu'on ait évidemment des infirmières, des soignants, des personnes qui fassent ça d'une manière professionnelle, parce que quand les gens sont entrés dans cette demande, bah, il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir être aidés. Donc évidemment, ils sont payés, tous ces gens. Et puis ce qu'on oublie de nous dire, c'est que quand Dignitas aide quelqu'un, je veux dire, entre guillemets, c'est pas comme pareil dans l'interview qu'a donné monsieur Leonetti qui dit 6 000 euros pour du pain total, c'est scandaleux alors que ça doit coûter 40 ou 50 euros. Mais c'est faux ce qu'il nous dit. Non seulement il y a tout cet accompagnement qui dure, des visites médicales, etc., mais il faut aussi savoir que tout est pris en charge jusqu'à l'incinération. Que la personne, tout est prévu, l'enterrement, tout est financé dedans. Alors, peut-être que ça peut nous paraître cher, mais ceux d'entre nous qui ont été confrontés à un enterrement ou à ce genre de choses savent combien ça coûte. Et 6 000 euros, c'est terrible à dire, mais c'est tout compris. Donc, le prix n'est pas aussi extraordinaire. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens... Et ça, on a vu ces dossiers, des gens qui adhèrent à cette association, qui ont des pathologies très graves et qui entrent justement dans le but, à un moment, de demander à pouvoir être aidés. Si leur situation économique change, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas payer au moment voulu, eh bien, à partir du moment où ils ont été adhérents, qu'ils avaient eu cette première visite médicale, eh bien, évidemment qu'au bout, l'association Dignitas, elle les aide, qu'ils aient les moyens ou qu'ils n'aient pas les moyens. Et tout ça, évidemment, on ne lit pas dans les journaux. Mais vous savez, moi, je vous reporte à 2 articles qui ont été sur la DMD France. Un article du Parisien qui nous a fait passer pour des gens qui tuent tout le monde, etc. Un autre article du Point qui est paru il y a 1 an et demi, qui a été terrible. Alors, vous savez, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux. Et quand les journaux ont quelqu'un dans le nez, ou les télévisions, parce que le reportage de M6 sur Dignitas, il était tôt, d'ailleurs, il les a poursuivis en justice, les deux, hein, monsieur Minelli. Ces reportages étaient totalement faits à charge. Et une vision tout à fait caricaturale qui ne représente pas la réalité, mais comme on en aura sur nous aussi. Vous savez, on l'a vu à partir du moment où quelqu'un en plus arrive à percer un peu dans l'opinion, à un moment il y a toujours le revers. On vous met en haut, on vous démolit. Chantal Sébir, le Parisien, a fait des choses extraordinaires sur elle. Dès qu'elle est morte, ils ont mis des articles absolument odieux. Ils ont retrouvé des médecins qui, en plus, le secret professionnel, on ne savait plus où exister, disant que cette femme, elle prenait de l'homéopathie pour ses souffrances. Enfin, on a entendu des choses pas possibles. Pour l'affaire Imbert, on a eu la même chose. Le Parisien en a fait des tonnes. Et puis, ils ont un jour trouvé un soi-disant kinésithérapeute qui s'était occupé de Vincent Imbert. Ils ont oublié de nous dire qu'il s'en était occupé pendant une semaine et qui a tenu des propos totalement contraires à sa maman et à tous ceux qui ont suivi Vincent Imbert. Eh bien oui, les journaux ont dit ça, le mal que ça a pu faire. Et je pense que là-dessus, on doit tous être bien conscients que notre association, elle est visée parce qu'elle a un combat qui dérange certains lobbies, qui dérange certains mandarins, et que rien ne nous sera épargné, comme rien n'est épargné à cette association. Mais je vous dis, pour moi, ça ne reste pas non plus le panacée. Pour moi, j'estime que c'est pas normal qu'on soit obligé de quitter notre pays pour être entendu. On doit pouvoir être aidé dans notre pays, et c'est en cela où parfois je dis oui pour nous. D'ailleurs, à la DMD, c'est pas nous qui nous occupons des procédures pour emmener les gens à Dignitas. Nous voyons ce que nous pouvons faire pour les gens si ça entre dans le cadre de la loi Leonetti, parce qu'il y a plein de médecins qui résiste même à cette loi Leonetti, qui, il faut le reconnaître, il a raison là-dessus, n'est pas connu. Mais en même temps, ce n'est pas nous qui faisons les dossiers, parce que c'est vrai que quelque part, c'est aussi un peu contraire à ce qu'on veut. Nous, on veut une loi dans notre pays, mais on comprend parfaitement que des gens partent en Suisse quand ils n'en peuvent plus de leur souffrance. Et en même temps, on n'accepte plus qu'on dise n'importe quoi, et on le dira, même si ça ne plaît pas à certains, que ce qu'on a dit sur Dignitas, c'est ce qu'on a pu vérifier sur place, eh bien, c'est de la calomnie, et que cette association, eh bien, oui, elle n'a pas les mêmes méthodes que nous. Oui, c'est des professionnels, et c'est aussi normal que face à des professionnels, il y a un coût pour un certain nombre de choses. Mais en même temps, il y a certains d'entre nous qui ne pourront jamais payer ça, et c'est pour ça qu'il faut une loi dans notre pays.
Pas tarder, là.
Moi, je voulais insister sur un aspect que vous avez tout simplement évoqué, à savoir, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un combat idéologique. Et je crois qu'il faut insister sur ce problème-là. Il ne faut pas passer très vite sur cette question. Vous nous avez lâché le mot de mandarin également à l'instant. Donc, vous nous avez parlé aussi de l'Opus Dei qui noyaute certaines associations. Je pourrais dire aussi que l'Opus Dei noyaute une partie de l'Église, hein. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Ordre des médecins a un certain poids sur toute cette association. Nous, les vieilles militantes du combat pour l'IVG, nous savons ce que nous avons dû faire pour passer outre les vœux des médecins. Et si, justement, les IVG ne sont pas une réussite en France, c'est que certains médecins refusent de les pratiquer. On le sait. Donc, je crois que pour qu'une loi réussisse, il ne faut pas occulter le problème idéologique et savoir qu'il faut, à un moment, si vous partez des problèmes particuliers, il faut aller vers une philosophie plus générale de notre vie, de notre fin de vie. Et je pense qu'il faut également insister sur ce problème-là.
Oui, mais madame, je pense qu'on n'est pas, je vais dire, très, très, très éloigné. En même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le travers qu'on nous dit que c'est un débat purement philosophique et idéologique. C'est un combat concret. Et c'est pour ça qu'on le mène aussi de cette manière-là. Parce que si on veut être suivi par les gens, c'est en montrant que c'est une réalité, et une réalité qui nous touche tous. Quand je dis tout à l'heure qu'il faut qu'on change le paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une affaire médicale alors que ça doit être une affaire citoyenne, je crois que c'est quelque part de l'idéologie, mais qui est faite autrement, de l'idéologie concrète, de l'idéologie de la vie. Et c'est par ce bout-là, je crois, aujourd'hui qu'on doit l'avoir, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on arrête de tomber dans ce piège dans lequel on est tombé depuis longtemps, en acceptant que seuls des professionnels de santé aient la parole là-dessus. La commission Leonetti, il suffit de regarder les auditions, c'est essentiellement des gens qui travaillent dans la santé. Peu de les mouvements laïcs, tout ça, ne sont pas entendus, ce qui nous paraît tout à fait scandaleux. C'est un débat, comment dire, éthique, c'est un débat citoyen. Et je crois que c'est par ce biais qu'il faut le voir, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à avancer et à se faire entendre, et puis aussi à expliquer que c'est aussi un débat concret. Parce que les gens, s'ils nous suivent, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est parce que quelque chose qu'ils ont vu, parce que si on est... Et là, je vous comprends quand même, mais si on n'est que dans un débat idéologique, c'est les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, nous n'avancerons jamais. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes jamais avancés. Et si nous avançons ces derniers temps, c'est parce qu'on dit que justement, c'est un débat pour la liberté de tout le monde. Et que ce n'est pas simplement une loi pour faire plaisir à des gens qui sont
On est une association laïque, bien sûr, mais on est l'association laïque, ça veut dire qu'on entend aussi les autres, on peut entendre aussi les religieux, mais ils n'ont pas à nous imposer, ils n'ont pas imposé les choses. Et je crois que tant qu'on dira que c'est une loi de liberté pour tout le monde, on avancera, mais faisons attention, n'en faisons pas seulement un débat idéologique, philosophique, c'est revenons aux fondamentaux et faisons surtout que ce ne soit plus un débat médical. Et je peux vous dire que quand on aura gagné cette partie-là, on aura tout gagné. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment avancer. Puis on va bientôt, on prend les dernières questions, puis on va arrêter, parce qu'en plus, beaucoup d'entre vous s'en vont pour dîner. Ou...
Oui, je veux simplement préciser une chose en apportant un exemple précis et vécu. C'est pas parce que une loi même est votée qu'il n'y a pas des difficultés pour l'appliquer. On s'en rend compte actuellement, d'ailleurs, dans les centres hospitaliers, le retard qu'il y a dans l'application des lois. On a vu des lois, ce qui était affiché alors que la loi Leonetti était votée, dans les hôpitaux était encore affichée la loi de 98. Hein. Alors il y avait eu la loi Kouchner entre temps, et vous voyez, on avait un retard très important. Et autre chose, un autre exemple qui s'est passé lors d'une réunion à laquelle j'ai participé à Tours, et au cours du débat, effectivement, il a été fait le rapprochement entre l'IVG, les difficultés, etc. Et il y a une personne qui est intervenue et qui disait, c'est anormal, voilà, on se trouve dans tel cas, cette femme n'a pas plu, il n'y avait pas moyen, il n'y avait personne, elle ne pouvait pas, elle allait être hors délai, etc. Elle dit, c'est pas normal, il faudrait que ce soit mieux organisé. Et il y a un médecin hospitalier, qui était une femme, a dit, non, madame, il faut s'organiser justement pour que ça se fasse le moins possible. Il faut organiser les plannings justement pour que les IVG y en aient le moins possible.
Alors, les dernières questions ou observations, puis on va vous laisser aller dîner. Il n'y en a plus. Eh bien, merci, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, on compte sur vous. Parce que c'est un débat où on est tous impliqués et on a tous notre rôle.